Gameblogueuse, Gameblogueur, bonjour et bienvenue dans le nouveau podcast de la rédaction de Gameblog, podcast 422, avec encore une fois un podcast adressé en exclusivité à l'actualité de la semaine qui a été encore une fois très très chargée. Avec moi aujourd'hui, nous avons Julo.
Salut Plumeau.
T'as fait un bon job.
Bonjour
la semaine
à
dernière,
tous.
Hein, comme d'habitude, à chaque fois que tu fais du remplacement, toi tu...
En football, on appelle ça un joker de luxe.
Ou un coiffeur aussi.
Ouais.
Voilà. Bon, bref, merci en tout cas pour cette belle reprise de rôle la semaine dernière.
Vraiment, mais c'est dur.
Moi, j'ai bien profité de mes vacances, hein, je te le dis tout de suite. Ouais. J'étais peinard au soleil pendant que vous enregistriez et que vous étiez en train
de
chier.
Et comme t'as loupé toute la semaine là-dessus, du coup, t'as regardé le podcast et c'était réglé.
Oui, absolument. Oui.
Absolument.
Ah, voilà, oui, je l'ai bien regardé. Il y a aussi Romain avec nous.
Salut les gamers.
Et Camille,
salut.
Évidemment.
Salut les hyper joueurs.
Aujourd'hui, trois thèmes vont se dégager de ce podcast. Le premier, c'est évidemment, vous avez pas pu le louper à moins que vous ayez pioncé pendant un petit moment. C'est l'annonce de Call of Duty World War II, le retour aux sources de la série dont Camille va nous parler tout à l'heure et sur lequel nous allons nous exprimer aussi, puisqu'on a pu voir de notre côté, et je pense vous aussi, la bande-annonce qui fait un peu saliver quand même. Hein. On en reparlera.
En attendant
tout
le
à
retour aux sources dans 5 ans vers la guerre moderne, voilà. ça va être intéressant.
Exactement,
ça manque de remix dubstep de Seven Nation Army quand même.
Contrairement
qui allait si bien à la Première Guerre mondiale,
je trouvais. Mon Dieu. Bon, on fera aussi un point Nintendo, puisque Nintendo, ça n'arrête pas en ce moment. Il y a des annonces, des chiffres de tous les côtés, et même une nouvelle console.
On ne sait plus où donner de la tête.
On ne sait absolument plus où donner de la tête avec Big N. Et on finira avec le test de Dawn of War 3, qui est peut-être la nouvelle référence du RTS. C'est Camille aussi qui nous en parlera, avant évidemment qu'on passe au crible d'autres tests qui sont parus cette semaine, et les actus en vrac qui ont pu... Eh bien, vous plaire ou vous déplaire. Mais avant ça, comme chaque semaine, nous allons passer par le win et le fail. Et le win, mon cher Julo, c'est
oui,
toi qui t'en charge cette semaine.
C'est pour WAM.
Ça concerne
Atlus et le jeu Persona 5, parce que comme vous savez, là, c'était un petit peu un fail hein, à la base.
Ouais.
Atlus avait mis en place des restrictions vraiment, vraiment très sévères sur le stream de Persona 5, donc qui est sorti le 4 avril dernier.
Et les vidéos de Let's Play sur YouTube.
Voilà. Alors donc tous les YouTubers étaient tenus de ne pas spoiler, mais genre à un point vraiment vénère, quoi, extrême.
Ouais, avec une durée limité pour les vidéos.
Voilà.
Enfin, c'était.
Mais alors, ça s'était accompagné un peu de menaces, hein, de fermer les chaînes de ceux qui respecteraient pas les règles, etc. Bref, la pilule était mal passée. Il y avait pourtant un énorme good buzz autour de Persona 5.
Ah, je vous confirme.
Il est toujours là, d'ailleurs.
Il est incroyable, ce jeu.
Mais le truc, c'est que dans sa volonté de pas spoiler ceux qui n'auraient pas joué au jeu, bah, Atlus a sorti un peu les armes, j'ai envie de dire, face à sa communauté. Ça a pas plu. Mais alors, pourquoi on en parle en win, me direz-vous ? Eh bien, simplement parce que justement, Atlus a décidé de revenir un petit peu sur tout ça.
Et un peu comme l'homme le plus classe, ils se sont excusés.
Voilà, donc pour avoir la classe, il faut toujours s'excuser, t'as raison, quand on a fait une connerie. Et donc ils se sont excusés, ils ont présenté officiellement leurs excuses auprès de leur communauté, hein, des joueurs de Persona 5. Et ils ont dit, voilà, les limitations à gogo, les fermetures de chaînes, machin, etc., il n'en est plus question. On change les règles, ça va être beaucoup plus facile maintenant pour vous. Donc en gros, si vous avez Persona 5, vous avez le droit de streamer exactement comme vous voulez désormais jusqu'à la journée du 19 novembre in-game. C'est très important parce que c'est à partir de là que la fin du jeu, on va dire, s'enclenche apparemment.
Exactement.
Moi, j'ai toujours pas joué à Persona 5.
Oh là, tu devrais.
Bah, j'attends qu'il sorte sur Switch. Je suis sûr que ça va être annoncé bientôt.
J'avais dit non. Hein.
Oui, ils ont dit non, mais ils ont dit non. C'est normal parce que le jeu allait sortir sur PS4 en Occident, etc. Bref, j'ai très envie d'y jouer et donc j'y jouerai plus tard. Mais dans tous les cas, donc si vous voulez le streamer, c'est possible jusqu'au 19 novembre in-game. Vous avez les excuses officielles de
Atlus.
Et donc, rien que pour ça,
juste
ça vaut un win.
Pour une petite précision, la fonction share, pour l'avoir essayé moi-même, ne fonctionne pas hein, sur PS4 pour Persona 5. Donc,
oui, ça, ils l'ont bloqué toujours.
Il faut passer par un boîtier de capture si vous voulez streamer ou poster des vidéos de Persona 5.
Faut avoir le vrai matériel du YouTuber.
Implicitement, Atlus USA laisse entendre que toutes ces restrictions venaient du Japon. C'est des directives qui venaient d'en haut.
Ce qui est franchement pas impossible.
Non, ce qui n'est pas impossible quand on sait que Sega est très très sévère. Sega Japon est très très sévère en ce qui concerne le streaming, la capture, etc. On sait que par exemple les Yakuza, souvent au Japon, il y a pas mal de séquences qu'on ne peut pas capturer. Sur Yakuza 0 par exemple, certaines séquences
Bouton share qui se désactive.
Ouais,
le bouton
share est désactivé. Ils avaient retiré certaines restrictions pour l'Occident, mais malgré tout, il y a pas mal de cinématiques et de passage de Yakuza 0 que même chez nous, on ne peut pas capturer. Après, le message qui a été posté là par Atlus, moi je le vois un peu moins comme un win que toi. Pour moi, en fait, c'est juste qu'ils ont attendu genre 3 semaines, un mois, je sais pas depuis combien de temps personne
n'a fait. Que la période sensible passe.
Voilà, que la plupart des gens qui étaient vraiment intéressés par le jeu l'aient acheté, etc. Maintenant, ils disent que c'est moins grave si ça stream ou pas. Et d'ailleurs, si vous streamez au-delà de la date que tu évoquais tout à l'heure, tu cours encore le risque de te faire supprimer ta chaîne et de recevoir des plaintes sur YouTube, etc. etc.
Ouais, mais c'est logique en même temps.
Donc moi, je pense que c'est pas vraiment genre on a changé d'avis, c'est juste qu'ils se disent maintenant c'est moins gênant, donc on va retirer certaines restrictions. Moi, je suis moins enthousiaste. J'ai lu en plus le ton du message. Je le trouve moins désolé que ce que vous semblez dire.
Bah pourtant, il s'excuse.
Oui, il s'excuse, mais je n'ai pas trouvé. C'était genre on s'est trompé, etc.
Non, bah, s'ils le disent après, si vous pensez que le ton était menaçant, c'était pas le but, etc.
T'aurais aimé qu'ils se roulent par terre et
non, moi j'aurais aimé qu'ils retirent toutes les restrictions.
D'accord. Ils en ont quasiment toutes retirées. Oui, il n'y a plus que celle-ci maintenant.
Il n'y a plus qu'une limite de date maintenant. C'est quand même beaucoup plus simple. Enfin bref.
Oui, mais on sait historiquement, moi, j'aime bien YouTube et les sites de partage de vidéos parce que ils te permettent d'apprendre
des techniques à te pouiller au Tetris.
Ouais, de revoir certaines.
Je vois pas du tout de quoi vous parlez.
Cinématiques. De revoir certaines fins de jeu, ouais. de voir des fins de jeu que tu as déjà terminées il y a très longtemps, ou alors des jeux que tu n'as jamais pu terminer, etc. Et en termes de base de données, YouTube, c'est intéressant. Et là, avec les restrictions de Sega, Atlus, pour Persona 5, c'est clairement pas possible. Et donc, moi, je trouve ça dommage.
Si tu veux, c'est un win pour les streamers, hein, clairement, qui se sont vus enlever un poids quoi, autour du stream de Persona 5. Mm. Et d'autre part, effectivement, pour les excuses officielles. Bon, après, t'as raison, faut pas non plus être un bisounours. C'est sûr qu'ils ont voulu serrer la vis pour le lancement. Voilà, mais la volonté derrière, ça reste de pas spoiler. Et puis,
tu vois, pour le coup, je pense que si c'était Sega Atlus US qui avait fait ses règles.
Tu dis beaucoup Sega Atlus pour avoir discuté avec Sega il y a pas très longtemps, comme tu le sais. Ouais. La structure Atlus est vraiment
séparée.
C'est-à-dire que ils ont pas fait comme ces entreprises qui en rachètent d'autres et qui disent on va mélanger les ADN ou alors on va absorber l'ADN. Non, ils ont gardé des bureaux séparés, des ADN d'entreprises séparés, des directions séparées.
C'est un peu comme Activision et Blizzard, quoi.
Exactement, et c'est exactement ça d'ailleurs. Il y a pas longtemps, j'ai pu en parler avec Activision aussi. Il fallait quand tu as deux boîtes qui ont une telle identité qui doivent fusionner, il faut justement pas tenter de les fusionner à tout prix. Il est parfois bien de garder
l'édition des jeux venus du Japon, par exemple. Je sais que les jeux japonais comme Yakuza 0 et Persona 5 aux États-Unis, c'est la même structure qui s'occupe de tout ça. Mmh. Donc c'est pour ça que j'ai tendance à les mettre dans le même panier.
Je pense qu'on a déjà passé énormément de temps sur ce win.
Oui, mais Persona 5 mérite qu'on en parle. J'ai commencé, je trouve ça génial. On va passer au fail maintenant.
Oui.
Mon petit Romain.
Oui.
Parce que c'est sur toi que ça tombe, vu que c'est des jeux que t'attends comme personne à la rédac. Hein.
Le problème, ce sont deux jeux que j'attends pour le coup, effectivement.
Bah, c'est pour ça que je dis comme personne à la rédac, parce que je crois pas attendre Kingdom Hearts, je crois pas que Julo non plus.
Alors attends, c'est pas parce que nous on ne l'attend pas particulièrement que vous le savez, Kingdom Hearts 3 c'est l'un des jeux les plus attendus de l'univers.
Je sais, mais bon.
Et donc les gens en ont marre d'attendre.
Mais en fait, c'est surtout ça, c'est que Kingdom Hearts 3 c'est un jeu qui, rappelons-le, a été annoncé à l'E3 2013.
Il y a 25 ans.
Donc ça commence à remonter.
Et depuis, on a des milliers de remasterisations de nouvelles versions 1.5, 1.8,
12.22.
On n'y comprend même plus rien.
Et de temps en temps, on a le droit à de nouvelles vidéos. Nomura parle un petit peu, donc il nous file des nouvelles informations. Il y a quelques mois, il avait annoncé que la sortie de Kingdom Hearts 3 et de Final Fantasy VII Remake n'était pas pour tout de suite. Et un document récemment mis en ligne par Square Enix semble confirmer que c'est effectivement pas pour tout de suite. Alors, sachant que le jeu a été annoncé en 2013, ça commence à faire long. Donc, je vous explique. Sur un document de Square Enix, il y a son listing des licences, des grosses licences sorties en 2017 et de ce qui va sortir sur le reste de l'année et au-delà. Et dans la catégorie jeu année fiscale qui se termine en mars 2018 et au-delà, Final Fantasy VII Remake et Kingdom Hearts apparaissent tous les deux. Sauf que dans cette catégorie-là, il y a également d'autres jeux qui ont la mention sortie avant la fin 2017. Sauf que Kingdom Hearts 3 et Final Fantasy VII Remake n'ont pas cette mention. Ce qui veut dire que dans le meilleur des cas, l'un ou l'autre sortira avant la fin mars 2018. Mais ce qui est le plus probable, c'est que ça sorte encore après ça. Mmh. Donc on peut...
Sur l'année fiscale 2018, ça peut même sortir en début 2019. Alors.
On peut ouais. s'attendre, ouais. On peut s'attendre à ce que Kingdom Hearts 3 et Final Fantasy VII Remake, et qui ne sera que le premier épisode, parce que rappelons-le, c'est un jeu épisodique.
Deux énormes sorties qui de toute façon ne sortiront pas en même temps.
Ça sortira certainement pas en même temps. Il y a de fortes chances que ça sorte entre, on va dire, avril 2018 et au-delà, et peut-être même genre... en 2019, donc ça commence à faire long. Vraiment,
surtout que Final Fantasy VII, si c'est le cas, il va louper son année de 20e anniversaire. Quoi. C'est quand même.
Bah c'est 2017 l'année ouais, anniversaire.
Il sortit en début d'année 1997. Pardon.
Alors après, on sait que pour les gros anniversaires comme ça, en principe, ils font durer ça sur 2-3 ans, dans certains cas exceptionnels. Mais,
ouais, mais là,
ça la fout autant mal. Final Fantasy VII Remake, bonne gueule, quoi. Il a été annoncé en 2015. E3 2015, donc ça c'est un petit peu moins long, mais ouais, malgré tout ça commence
temps,
à faire.
Vu ce qu'ils sont en train de faire avec Final Fantasy VII, quoi, on se souvient tous des deux trailers, enfin les deux teasers.
Ouais.
Putain, j'espère qu'ils vont prendre leur temps et sortir un truc qui va tout déchirer, quoi, parce que là ils sont attendus au tournant par une armée de fans.
Bah, ils sont attendus au tournant sur les deux.
Sur les deux, cela dit. Ouais. Mais sur Final Fantasy VII, quand même, ils ont décidé de le remaker, mais à gogo, ouais. quoi.
Ouais, mais regarde, oui, effectivement, Final Fantasy VII Remake, c'est peut-être le jeu qui était le plus réclamé au monde avant son annonce. Mais Kingdom Hearts 3, non seulement il a été annoncé en 2013, mais il faut se rappeler aussi que Kingdom Hearts 2 est sorti sur PS2. Donc entre les deux épisodes, il y a un écart. Alors même s'il y a eu plein de spin-off de 2.8, 2.7, de Pi 3.14, etc., mais ça fait quand même une attente majeure entre deux épisodes numérotés.
Au moins on sait qu'il sortira.
Oui,
normalement,
on sait qu'il sortira pas sous réserve d'annulation, mais on sait jamais, mais franchement je pense pas.
Bon, donc tout va bien, et Shenmue 3 lui sortira à la fin de l'année, donc tout va bien.
Officiellement, voilà.
Et
toujours ça.
Et ça fait 15 ans, c'est ça, depuis Shenmue 2, donc voilà.
Shenmue 2, c'est 2000.
17, pardon. C'est le moment, de passer au premier thème de la semaine. Vous l'avez vu, vous l'avez suivi sur Gameblog. Call of Duty World War 2, ça y est, c'est annoncé, il existe. Il sortira le 3 novembre prochain sur PS4, Xbox One et PC. Le trailer que vous pouvez voir si vous êtes premium actuellement, mais sans le son, alors allez voir plutôt dans la news qui lui est dédié.
Trailer
in-game, paraît-il, in-game. C'est vraiment in-game
C'était écrit au tout début du trailer.
Ah ouais, donc.
Noir sur blanc.
Oui, c'est vrai que c'est écrit au tout début, pardon. Avec des images
non, mais
du jeu.
J'ai la certification que c'est in-game.
Ah, Camille, tu commençais déjà à teaser. Donc, trailer qui, nous, en tout cas, la rédac nous a plutôt ébloui. Hein. C'est plutôt impressionnant à voir. On a l'impression d'avoir un Medal of Honor débarquement allié en version surpuissamment beau.
Exactement. C'est exactement ça. C'est
et ça fait
résumé,
un peu Soldat que... Ryan aussi. D'ailleurs, bah, il y a un acteur de.
Alors il y a un acteur
de Band of Brothers. Non.
Par contre, l'acteur principal qu'on voit un moment de la.
Josh Duhamel.
Il joue dans Transformers. Donc alors moi je suis pas fan de la saga cinématographique, mais voilà.
Voilà. Mais cet acteur là qu'on vient de voir à l'instant, je suis sûr qu'il a joué dans un truc de.
Alors, en tout cas, pas dans Band of Brothers, ça c'est sûr.
Ah d'accord.
Mais c'est le grand brun là qu'on voit. C'est lui, c'est sûr. Il joue un. Ah bah c'est lui d'ailleurs. Voilà. Il joue dans.
Bah, il jouait dans la série Las Vegas, moi. C'est de là que je connais, en fait.
Voilà. Effectivement, oui. Il y a certains acteurs qui sont déjà connus pour pas mal de petits rôles.
Et quand on connaît Activision, à mon avis, ils en gardent encore peut-être un ou deux sous la main, histoire de dire...
On a demandé, finalement, pas tant que ça, apparemment.
Ah ouais ?
Non, ils ont plus fait les choses de façon intimiste. Donc, il n'y aura pas de grosses stars.
D'accord. Bon, toujours est-il que ce trailer, nous, il nous a plu, n'est-ce pas, Julo ? N'est-ce pas, Romain ?
Oui.
Oui, mais
on sent que le retour aux sources va s'opérer de manière.
Non, ça a l'air vraiment cool. Après, moi, lucide. Je trouve que le retour aux sources, ça ne prouve qu'une chose, c'est que le jeu vidéo est un éternel recommencement. Et quand t'as une série qui nous pond un épisode chaque année, on se lasse vite. Et puis on parle d'un retour aux sources, alors qu'en fait, à l'époque, on en avait marre de la Seconde Guerre mondiale et qu'on voulait absolument passer à autre chose, quoi. Donc, les images qu'on voit dans ce trailer, elles sont impressionnantes, on va dire techniquement. Et puis bon, de toute façon, Camille a vu le jeu, donc il va nous en dire beaucoup plus. Mais moi, pour que je sois totalement hypé, il faut peut-être que je joue au jeu et que je trouve ça génial, quoi. Parce que là, ce que je vois vois, j'ai l'impression que c'est des images que j'ai déjà vues. Tu citais tout à l'heure Medal of Honor, le soldat Ryan, les mêmes séquences sur les barges là qui arrivent sur la sur les plages.
Bah, c'est-à-dire que le débarquement en Normandie, on peut pas trop.
Voilà, la Seconde Guerre mondiale, ça reste la Seconde Guerre mondiale.
Oui, voilà, c'est ça. Le matériel, ça reste le même. Après, j'espère qu'il y aura plein de belles idées, mais je crois que c'est le cas. C'est ce que nous dira Camille. En tout cas, je crois que la communauté a bien réagi.
La communauté est plutôt favorable, on va dire, puisqu'on vous a évidemment soumis un sondage par rapport à ce trailer. Vous êtes 31%, on va dire, à être hypé, entre guillemets, par ce trailer. Il y en a 35% d'entre vous qui attendent le jeu, mais surtout d'en voir plus. Et puis, il y en a 33% qui s'en caquent complètement. Regardez, voilà, si vous êtes, si vous êtes premium, vous pouvez voir là, 32% qui disent « c'est pas ma guerre ». Donc voilà, on peut dire en tout cas une chose, c'est qu'après avoir vu le compte YouTube de Call of Duty, l'accueil réservé à ce trailer est beaucoup plus favorable qu'à celui d'Infinite Warfare.
Ah oui, parce qu'on se souvient que c'était une grosse claque dans la gueule d'Activision à l'époque, parce que genre il y avait 80% de mecs qui avaient pas aimé.
C'est toujours la deuxième vidéo YouTube la plus dislikée de tous les temps, derrière le clip de Justin Bieber, Baby, et devant Vanessa Black et son Friday insupportable. Donc, voilà.
Et donc alors que là, ça a été mieux accueilli.
Ah oui, ça a été accueilli très très vite. Favorablement. Après, c'était quand j'ai regardé donc le lendemain de la diffusion du trailer. Bah là, on y voilà, la magie de Poufy. Si vous êtes premium, vous pouvez voir sur 10 millions de vues, il y a 734 784 personnes qui ont aimé et seulement 62 000 personnes qui n'ont pas aimé, qui ont mis un pouce vers le bas.
De toute façon, il y a toujours même aussi une dose de troll quand c'est un nouvel épisode de Call of Duty qui de base n'aime pas le jeu, donc ça pourrait être sur n'importe quel sujet.
Mais bon, l'année dernière, avec Infinite Warfare quand même, c'était vénère quoi. C'était le jeu de trop en fait l'année dernière. Bah, et je crois qu'Activision en est conscient d'ailleurs.
Le président d'Activision l'a exprimé justement cette semaine, un peu avant la présentation du jeu, en qualifiant Infinite Warfare de mauvais jeu au mauvais moment, parce que voilà, il expliquait justement qu'il y avait un espèce de cycle culturel dans lequel il fallait essayer d'avoir un peu de chance, et que quand ils ont pris la décision de revenir aux sources en 2014, il n'imaginait pas que cette année ça allait être je crois qu'il y a Dunkerque de Jonathan Christopher Nolan qui doit sortir, qu'il y a une espèce de
d'engouement
à nouveau pour l'historique, pour la Seconde Guerre mondiale.
J'ai pu parler de ça avec eux aussi dans l'interview. Donc alors moi déjà il faut savoir qu'on n'a pas vu évidemment que le trailer. On a aussi vu du gameplay. On a eu aussi beaucoup d'informations de la part des développeurs, parce qu'on a pu faire un beau petit tour de table, poser les questions qu'on voulait.
Et qu'est-ce que t'as appris, Kay?
Alors déjà il faut savoir que pour ceux qui s'inquiètent des trailers en général, dire ah oui mais c'est hyper scripté machin, c'est ça reflète pas la vérité, c'est plus beau que le jeu, le produit final.
Donc c'est pas du bullshit ce qu'on
alors voit. Là pour le coup c'est pas du bullshit, c'est vraiment le résultat. En tout cas pour l'instant, faut savoir que le jeu sort le 3 novembre. Donc déjà, faut savoir que le jeu a quand même pas mal de mois devant lui pour continuer à évoluer dans le bon sens.
Mais qu'est-ce qu'ils t'ont montré à toi alors? C'est du vrai gameplay qu'ils t'ont montré?
On a vu du vrai gameplay, ouais. On a vu alors une première partie donc sur le débarquement, donc là vraiment la scène de la plage qu'on peut voir dès le début du trailer. Ensuite l'arrivée dans les bunkers allemands, et on a vu ensuite une seconde vidéo donc là beaucoup plus tardive dans la campagne solo. Dans les forêts de Erdgen, donc ça se passe à la frontière belge, donc c'est vraiment beaucoup plus tard que le débarquement, puisque c'est au mois de septembre 1944. Donc on a vu pas mal de choses, et j'ai été plutôt hypé du coup. Moi je suis pas, vous le savez maintenant, je suis pas forcément hyper fan de la série Call of Duty au départ. J'avais arrêté depuis un bout de temps, et là c'est un peu l'épisode qui m'a réhypé, qui m'a donné envie de m'y remettre. D'autant que les développeurs ont été assez convaincants dans leur manière de parler de leur jeu. Donc
ils ont poussé les bonnes dards, ils y paraissent.
C'est Sledgehammer qui s'en occupe. On a notamment donc le fondateur du studio, donc Glenn Schofield, qui a pu nous parler de son bébé. Et c'est vrai que ça donnait envie. Il parlait de ça avec beaucoup d'émotion, notamment puisque son propre grand-père a participé au débarquement allié. Il a été blessé là-bas, donc il n'est pas rentré évidemment dans les détails, mais on sentait une certaine émotion dans sa voix et sur son visage. C'était assez étrange d'ailleurs. Il nous parlait du jeu un peu avec la larme à l'œil. C'était assez étrange.
Pour les Américains dont les membres de la famille ont participé à ça, c'est quelque chose de, comment dire, ça les touche énormément à chaque fois.
C'est dans l'histoire familiale.
Pas que les Américains.
Oui, mais je parle de ceux dont
qui ont,
les...
ceux qui ont fait le débarquement.
Voilà, ceux qui ont fait le débarquement. Hein, pour eux, c'est quelque chose de très 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 fort dans leur histoire familiale.
Ouais, bien sûr.
Alors, il faut savoir que, bon, évidemment, on n'a pas forcément été tout de suite étonné, puisqu'on s'attendait à ce que c'était la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu de nombreux leaks.
Oh là, il y a des fuites de ouf pendant une semaine.
Surtout, en fait, les photos des artworks qui avaient fuité. Donc, on savait déjà à quoi s'attendre, mais le trailer a quand même envoyé du lourd pour commencer. Ouais. Et on a appris pas mal de choses. Alors, on a eu beaucoup d'informations sur la campagne solo. D'ailleurs, si vous avez lu mes impressions sur Gameblog, vous vous rendez compte que voilà, la campagne solo, c'était vraiment 80% de la présentation. On a toutefois pu aussi avoir des informations pour ceux qui s'inquiètent sur la partie multijoueur, qui est quand même finalement c'est un peu du 50-50 sur Call of Duty, qui est vraiment un gros morceau. Et le multijoueur, ça va pas plaire à tout le monde, ça va être une énorme métamorphose en fait. Une énorme métamorphose. Alors tout à l'heure, Jo, tu parlais de retour aux sources. Alors pour le multijoueur, c'est pas vraiment un retour aux sources, c'est plutôt vraiment c'est un changement de visage.
Un nouveau départ,
un changement de visage.
Ils essaient d'aller plutôt dans la direction de Battlefield, en proposant des champs de bataille immenses avec beaucoup plus de joueurs. Voilà. Sur le champ de bataille.
Les développeurs ont été clairs sur le sujet, hein. La Seconde Guerre mondiale, c'est avant tout une guerre d'envergure, une guerre massive. Et du coup, pour présenter ça, évidemment, c'était pas en adéquation avec les petites escarmouches dont on pouvait avoir droit dans les précédents opus de Call of Duty. Là, on va avoir droit à déjà du team play qui va être mis en avant, puisque ça va être un peu la fin du moi-jeu où on finalement regardait son score et puis le reste de l'équipe, c'était bien, mais voilà. Bah finalement pas beaucoup d'importance. Là il y a vraiment un vrai team play qui va être ajouté au jeu. Pour pousser le team play, on va avoir un système de classe où il va y avoir une certaine de dépendance avec les autres joueurs. Alors on a pas eu énormément d'infos non plus, mais on sait notamment par exemple qu'il y aura un joueur qui va s'occuper des munitions, un autre qui va s'occuper des véhicules. Alors oui, puisque maintenant apparemment il y aura des véhicules qui seront pilotables dans Call of Duty.
On sent le Battlefield bien,
ils sont en train de tout changer là, mais c'est un gros risque de la part de d'Activision.
Alors,
pour ça.
Justement, c'était un peu un teasing. Alors, on ne sait pas si le développeur allait un peu trop loin là-dessus, parce que c'est vrai que le RP a un peu coupé la parole à ce moment-là au développeur, enfin au fondateur même, puisque c'est, on a appris qu'on créerait des véhicules. Alors, ça va pas être comme dans le Battlefield où on peut conduire de la moto à l'avion. Là, ça sera avec parcimonie, on va dire, mais on va quand même avoir la possibilité de conduire un tank même dans la campagne solo. Alors à voir comment ça va se transcrire à l'écran dans les détails, mais en tout cas c'est quand même une grosse nouvelle. Et puis donc pour le multijoueur, système de classe et surtout un mode de jeu totalement différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans Call of Duty, le mode War. Alors le mode War, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment le choc frontal entre les forces alliées et les forces de l'Axe, où c'est deux grosses équipes qui vont s'affronter. Pour l'occasion, on va avoir le nombre de joueurs maximum qui va augmenter, puisque
ils n'ont pas voulu le dire,
pu avoir les informations, mais à mon avis on va monter à au moins 32 joueurs, ça c'est clair.
Romain lève la main, attends.
S'il vous plaît, parce que j'ai suivi la conférence, tu sais, qui a été streamée en direct là, et à un moment ils ont fait un court teasing sur le multi.
Avec une image.
Et on voit une courte vidéo où on voit deux hommes sur une colline, et quand la caméra passe au-dessus de la colline, tu vois énormément de joueurs avec des pseudos qui apparaissent. Et j'ai fait pause à ce moment-là et j'ai essayé de compter, parce qu'il y a certains qui se chevauchent un peu, mais en regardant, j'en ai vu 44, je crois.
Ah voilà.
44 sans compter les deux mecs sur la colline.
Ça confirmait du 64 joueurs.
Apparemment, d'autres personne aurait il y a quelqu'un qui a fait une capture d'écran sur le Xbox Live sur la page consacrée à Call of Duty World War 2, et les mentions des fonctionnalités du jeu, ça parle de 48 joueurs. On se dirige tout droit vers un multi à plus de 40 joueurs, c'est quasiment acté.
Bah, de toute façon, oui, c'était impossible de retranscrire l'ambiance, l'atmosphère de la Seconde Guerre mondiale avec 16 joueurs, c'est pas possible. Donc là, 48, ça me semble plus intéressant. D'autant que les maps vont être beaucoup plus grandes, donc comme je vous l'ai dit, c'est des maps qui vont prendre une certaine envergure. Donc le mode War, pour expliquer rapidement ce que c'est un peu l'équivalent du mode opération et frontline de Battlefield. C'est-à-dire qu'en gros, la map est évolutive. On va par exemple avoir les développeurs nous ont parlé de l'exemple du débarquement. Quand on joue les alliés, on va d'abord devoir prendre la plage, ensuite on va devoir prendre la colline avec les blocos, et ensuite le village qui est au loin. Et quand on joue l'armée allemande, on va devoir évidemment bloquer cette avancée américaine et canadienne en l'occurrence, puisque je vais vous en parler tout à l'heure, mais il n'y a pas que des Américains. On va pouvoir comme ça donc faire une prise de territoire, et puis la map va changer de camp en fait selon l'habilité des joueurs. Donc ça c'est plutôt pas mal, et c'est vrai qu'il y a une grosse inspiration Battlefield. Mais attention, pour le coup, on a posé aussi la question de cette sorte de renouveau et puis d'envie de refaire des bons dans le passé. Le jeu est en développement depuis 3 ans, donc c'était même avant l'annonce de Battlefield 1, donc ça, faut le noter aussi. Et les développeurs ont été aussi les premiers surpris à voir, comme on le disait tout à l'heure, cet engouement sur la Seconde Guerre mondiale qui est en train de revenir, et en général pour le passé. Puisque, comme vous le savez, voilà, y a plein de films qui vont sortir. On a le film de Nolan, Dunkerque. On a aussi tout un tas de films. Il y avait un film aussi avec Brad Pitt et l'actrice française, comme
et Marion Cotillard.
Marion Cotillard, qui est sorti il y a pas longtemps. Enfin, voilà, y a un engouement pour la Seconde Guerre mondiale qui revient. Pareil pour les jeux vidéo. On va avoir toute une série qui se disent suite spirituelle de Call of Duty 2.
Bataillon 1944.
On a aussi toute une autre tripotée. Donc voilà, la Seconde Guerre mondiale revient sur le devant de la scène. Et il faut savoir que c'est aussi avant tout une demande des joueurs, puisque les gens, quand c'était donc l'âge d'or du FPS, c'était la Seconde Guerre mondiale qui était au centre, les gens disaient: ah, on en a marre, on veut changer, on veut aller dans le moderne. On a eu du moderne et puis du futuriste pendant une bonne décennie quand même, puisque ça, c'est depuis 2002-2003, la Seconde Guerre mondiale, c'est un peu fini.
Ouais.
Et là, les joueurs, voilà, on sent sur les forums américains, français, etc., que les gens demandent, il y avait vraiment une vraie demande sur la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, même pour Battlefield, il y avait déjà des gens un peu déçus, finalement, que ce soit la première, on s'attendait à la seconde, voilà. Donc pour Call of, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Moi, je voudrais savoir justement pourquoi on veut absolument revenir à la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qui reste à raconter de la Seconde Guerre mondiale? On a tout vu en jeu vidéo, quasiment.
Justement, on a tout vu, mais en fait, non, pas du tout. On a vu qu'une infime partie, puisque comme on l'expliquait les développeurs, et puis comme on peut le voir, il suffit d'ouvrir un livre d'histoire finalement pour s'en rendre compte. On a vu qu'une infime partie. Pourquoi? Parce que la Seconde Guerre mondiale, c'est une tripotée d'anecdotes, une tripotée de fronts finalement différents. Et on a vu, je sais pas, peut-être 10-20% de la globalité.
Les plus connus, quoi, les batailles les plus connues.
Les batailles les plus connues. Alors que là, évidemment, on va retrouver le débarquement, parce que c'est un peu l'ADN de la Seconde Guerre mondiale. C'est un peu la bataille décisive qui reste dans l'esprit des gens, qui a marqué les gens à l'époque, qui continue de marquer même dans les films, à travers les médias. Mais ouais, il n'y a pas que ça, il y a aussi d'autres choses qu'on va voir dans cet épisode qui ont jamais été montrées dans les jeux, ou même finalement très peu dans les films, notamment la libération de Paris. Donc ce qui va être l'occasion de...
il va y avoir une séquence de la libération de Paris.
Plus qu'une séquence, il va y avoir un chapitre entier sur la libération de Paris.
Putain, ça c'est mortel.
Donc ça c'est plutôt...
Où t'arrives en général Leclerc et tu défiles tranquillement.
Il y aura la deuxième DB apparemment. Il y aura aussi les FFI, donc les forces françaises de l'intérieur, donc les résistants. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Il n'y aura pas que les Américains. Il y aura aussi les Canadiens, il y aura aussi les Anglais. Et évidemment, il y aura aussi les Français.
Et la résistance.
Et il y aura la résistance.
Pas en DLC.
Non, la résistance. Sera
apparemment, tu vas incarner une résistante même. J'ai entendu parler de ça.
Alors là, oui, justement. Les développeurs quand même, on se restait un peu flou là-dessus. On ne sait pas qui on va incarner vraiment. On sait juste que le personnage principal, donc c'est Red. Encore une fois, une autre anecdote par rapport à l'histoire des développeurs. En fait, Red, c'était le surnom du père de Glenn.
D'accord.
Glenn Scofield. En fait, c'était le surnom que son grand-père lui donnait à son fils. Enfin, c'est un peu compliqué, mais donc ouais, il y a un peu une filiation.
Il a mis une petite patte très personnelle.
Un petit trait personnel. Et puis même par rapport à l'histoire de son grand-père, on va retrouver des petits il a pas précisé exactement, mais retrouver des choses qui vont parler à ça, vraiment lui parler. Donc voilà, la Seconde Guerre mondiale. Donc tu disais pourquoi cet engouement. Bah voilà, c'est un cycle éternel, le jeu vidéo, comme disait très bien Julo. Et puis il y a aussi ce désir de retrouver un peu ce qui faisait l'âge d'or du FPS, c'est-à-dire sans fioriture. Pas de viseur point rouge, pas de scope x6.
C'est ce que j'avais demandé au niveau du gameplay. Le gameplay habituel de Call of Duty ces 10 dernières années, c'est du ultra nerveux.
C'est ça.
On fait du score. C'est la plupart du temps des couloirs, même si c'est élargi avec Infinite Warfare un peu plus.
Là, c'est plus viscéral. C'est-à-dire que voilà, t'as ton M1 garant, t'as un viseur classique, une mire. Voilà, et puis c'est tout. Voilà, on compte sur son habileté de joueur, sur ses sensations, et on n'a pas de fioriture, pas de drone, pas d'exosquelette.
Et puis
ça reste
une violence un peu plus viscérale aussi, parce que dans le trailer, on voit notamment un passage où tu as un soldat qui domine un autre, qui est sur lui.
Avec un casque qui l'assomme.
Et
lui explose la tête.
Il lui explose la tête avec une pierre.
Avec un casque, ouais.
Avec un casque.
Justement, on voit. Alors, le jeu, ça donne l'occasion d'en parler, il y aura des QTE dedans. Donc, un peu le retour du QTE, puisqu'il me semble pas qu'il y en avait dans Infinite Warfare ni dans les précédents. Enfin, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu dans Call of Duty. Alors là, ça va pas être des QTE qu'on subit, c'est-à-dire comme dans le premier le nouveau Tomb Raider, où c'était un peu ça faisait partie du gameplay, mais en même temps si on le ratait, finalement, on était obligé de recommencer. Ouais. Ça, c'était un aspect un peu chiant.
Mais trop punitif. Oui.
Là, c'était c'est vraiment du QTE qui dessert pas l'histoire, qui sert l'histoire, qui va être pour l'immersion, qui va être assez intéressante. J'ai trouvé ça même plutôt pas mal. Alors celui qu'on a vu, j'ai pas voulu le spoiler, mais il fait vraiment référence à une scène du soldat Ryan.
Ça me rappelle un truc avec un couteau qui m'a traumatisé quand j'étais.
Exactement. Mais cette scène a beaucoup traumatisé de gens.
La scène du couteau, elle est terrible.
Voilà. Ah, abominable.
Vous serez ravis d'apprendre qu'on a un peu un remake de la scène du couteau dans Call of Duty. Et donc, voilà, un QTE qui va être. Enfin, plusieurs
douloureux.
QTE qui vont être douloureux et qui vont être. Mais assez intéressant pour l'histoire. Et effectivement, comme tu disais, Julo, assez viscéral et assez violent, assez gore. On le voit pour le débarquement. Voilà, il y a un moment. Notre personnage qui se penche vers un de ses camarades, puis on voit son visage voilà, déchiqueté par un obus. Mmh. Ça fait pareil dans Call of Duty, ça fait très longtemps qu'on n'a pas des scènes un peu. Alors, le mot gore à être employé, mais bon, c'est en même temps la réalité de la guerre. Hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça dans un Call of Duty, même Battlefield n'a pas vraiment osé le faire finalement. Et là, voilà, on a cet aspect-là qui rejoint exactement ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire cette inspiration, Soldat Ryan, tous ces films qui sont assez.
Voilà, les Band of Brothers, The Pacific. Ouais.
On demandait tout à l'heure aussi l'intérêt potentiel du retour à la Seconde Guerre mondiale, mais il y a aussi un autre élément qui justifie ce retour qu'on n'a pas évoqué, c'est l'élément technique. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, le dernier Call of Duty qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, bah, ça remonte
à deux générations.
Ça remonte il y a très longtemps. Il y a très longtemps. Et donc, la puissance, la technologie dans les consoles a beaucoup évolué depuis. Et donc, maintenant, on va pouvoir présenter la Seconde Guerre mondiale d'une manière sans précédent dans le truc. Et là, par exemple, tu vois, la question que je voulais te poser, Camille, et je sais pas si tu as la réponse, mais ce qu'on voit dans le trailer et ce que toi tu as pu voir, est-ce qu'ils vous ont dit, ou est-ce que quelqu'un a demandé sur quelle plateforme ça tournait, parce que potentiellement avec la PS4 Pro et la Xbox Scorpio, je parle uniquement pour les consoles parce que le PC c'est encore autre chose, mais sur les consoles on pourra avoir une représentation de la Seconde Guerre mondiale bluffante visuellement.
Alors on n'a pas posé la question explicitement, mais on a compris plus ou moins que c'est quand même sur du PC que ça tournait.
Logique.
Après il faut savoir que la version PS4 ne sera pas forcément hyper loin de ça, sachant en plus que les Call of Duty sont en général très bien optimisés, on n'a jamais eu à se plaindre de ça.
Battlefield aussi n'avait pas eu de problème. Battlefront, ça tournait très bien, c'est les moteurs de DICE. Mais
t'as raison de parler de ça, Romain. C'est vrai qu'alors il y a un gros travail qui a été fait. C'est pas un nouveau moteur graphique, c'est une évolution du précédent moteur, mais avec évidemment les nouveautés actuelles, donc les nouvelles technologies. Et il y a un gros travail qui a été fait. Donc on peut le voir dans le trailer sur notamment la peau, le grain de peau qui est vraiment très bien retranscrit. Les effets aussi, explosion, tout ce qui est FX. On a notamment, alors nous on vous l'avait pas vu, mais on a vu une séquence de gameplay, donc dans les bois on voyait un moment un bombardement et il y a tous les arbres qui explosaient autour, etc. Et c'est vrai que ça a plutôt de la gueule, et c'était exactement ce qu'on pouvait voir dans le trailer, c'est-à-dire que le trailer n'est pas du tout mensonger là-dessus, voilà, à moins que ce soit un immense complot, mais ça m'étonnerait. Le jeu de toute façon,
la vidéo de gameplay enregistrée qu'ils vous ont montré, ou c'était un mec qui jouait?
Non, c'était de la vidéo enregistrée malheureusement, mais on a quand même pu voir, voilà, c'était quand même assez probant.
Faut rester méfiant quand même.
Faut rester méfiant, évidemment. Il faut toujours rester méfiant dans le jeu vidéo, parce qu'il y a toujours une part d'inconnu.
Regarde les visages comme ils sont bien faits sur ce passage.
Mais de toute façon, pour Call of Duty, les trailers n'ont jamais vraiment été finalement mensongers au niveau technique. Hein. Quand il y avait des faiblesses, on les voyait tout de suite, et quand il y avait des nouveautés et puis des points positifs, on les voyait aussi. Ils étaient toujours mis en avant, même dans Battlefield, hein, c'est exactement pareil. Le trailer n'était pas mensonger, c'était du rendu in-game. Et puis maintenant, on peut se permettre de montrer du rendu in-game, puisque de toute façon, l'évolution est tellement grandissante qu'on arrive à faire des choses formidables même sur des plateformes qui n'ont pas forcément beaucoup de choses dans le ventre. Donc c'est, voilà.
Et en dehors des graphismes, tout à l'heure tu disais qu'il y avait une volonté des développeurs de trouver de nouvelles idées, etc. C'est sur quoi? C'est uniquement sur les séquences qui n'ont jamais été faites, ou il y a de la vraie nouveauté?
Ils veulent vraiment éviter le côté hollywoodien. Ils veulent en même temps que ça soit cinématographique, c'est-à-dire que quand même ça soit prenant, que l'immersion soit totale, et en même temps ils veulent pas que ça soit le syndrome du dernier blockbuster où finalement c'est un point de vue bien particulier et puis les autres on les oublie, on les efface. Ils veulent que ça soit un hommage à tous les morts qui ont été qui a lieu par ces bizarre de dire ça puisqu'on va quand même jouer, on va quand même tuer des gens et en même temps c'est un hommage donc c'est un peu étrange de dire ça, mais c'était présenté comme tel, c'est-à-dire qu'on veut vraiment faire un hommage à tous ces morts et donc du coup on va montrer plusieurs points de vue et pas un seul point de vue. Et donc la nouveauté ça va vraiment être ça, ça va être plus intimiste, on va avoir plus ce côté Band of Brothers justement, parce que Band of Brothers malgré ses voilà c'est peut-être problème historique à certains moments, ça reste quand même très très viscéral et très,
c'est une série très,
très proche de la réalité, notamment toute cette amitié entre les soldats qui se nouent au fil de la guerre, ou même les inimitiés. Voilà, c'est aussi très proche là-dedans et on retrouve cet aspect intimiste de la guerre. Et au-delà de ça, on va traiter des sujets donc, qui n'ont jamais été traités, la libération de Paris, la bataille de la Belgique,
tout et ce le qui... fait qu'il y avait des zombies dans l'armée allemande, puisqu'on va avoir un zombie
qui a été confirmé. Ça, on n'a pas pu. En fait, il a été confirmé pendant la
conférence avec l'image.
La conférence, mais nous, on n'a eu aucun détail là-dessus. Donc voilà. Et le
à mon avis, ça va faire comme dans Black Ops. Tu arriveras à la fin, t'auras Churchill avec Staline et je sais plus. Eisenhower, je sais plus qui était avec eux. Voilà, ils seront tous les trois et puis tout d'un coup ça va partir en couille, ils vont faire oh putain il y a des zombies, ils vont sortir les fusils à pompe du placard et ils vont faire bon allez maintenant ça va chier et hop c'est
d'après,
parti.
D'après ce que je sais parce qu'il en a parlé un petit
franchement,
peu.
Franchement il faut leur parler de ce scénario, je pense que ça pourrait leur plaire.
La fin de Black Ops c'était ça, hein. C'était Castro, ça. Kennedy, je sais plus qui étaient les deux autres avec eux, mais ils sont dans leur bureau en train de discuter, puis là tout d'un coup qu'est-ce qui se passe là? Attends, je sais pas, j'ai cherché les flingues.
Et Khrouchtchev aussi je crois.
Khrouchtchev, voilà, je sais plus qui étaient les quatre, mais c'est du coup ils se disent bon bah allez il y a les zombies qui arrivent, allez on va les défoncer, et hop tu vois Kennedy avec son fusil à pompe et c'est extraordinaire, hein,
mais Glenn Schofield en a reparlé un petit peu par la suite, aussi bien sur Twitter que pendant la présentation. Donc on a quelques petits détails, on sait que le mode zombie ce sera une histoire totalement inédite, donc pas de lien avec les modes zombies des précédents Call of Duty, et que ça sera vraiment un jeu d'horreur, et ils ont vraiment travaillé. D'ailleurs Schofield qui lui a créé Dead Space a dit que c'était son premier jeu d'horreur, il le considère visiblement comme un jeu à part entière, son premier jeu d'horreur depuis Dead Space. Donc ça
a l'air bien alléchant tout ça, hein.
Et puis j'ai oublié de parler d'un truc aussi, c'est la présence d'un mode coop. Pareil, totalement.
Putain, mais hyper important en plus. Ouais. Parce que,
et le mode zombie sera jouable en coop aussi.
Voilà. Alors, bah, mettre un mode coop pour la campagne solo.
Un mode coop pour la campagne. Alors. C'est un peu différent, c'est une histoire inédite, donc ça sert à rien à, enfin,
ah,
rien à
d'accord.
voir. Ça va pas être les mêmes missions qu'on aura déjà jouées dans la campagne solo, donc ça c'est plutôt, bah, c'est encore.
C'est un autre mode.
C'est
quoi.
Une plus-value finalement. Mm-hmm. Et puis voilà, des missions jouables en coopération, une histoire inédite. Donc ça c'est plutôt pas mal. Pareil, pas beaucoup d'infos là-dessus, mais on sait déjà qu'il y a ça et ça va faire quand même pas mal de contenu pour un Call of. On n'a pas trop.
Bon, alors ça s'annonce beau, ça s'annonce spectaculaire, plutôt riche en contenu,
renouvelé dans la formule.
Voilà, renouvelé dans la formule tout en retournant aux sources de la série avec la Seconde Guerre mondiale. Finalement, on a bien raison d'attendre ce jeu fébrilement.
Disons que, si, d'après ce que Camille dit, si Glenn Schofield, au moment de la présentation, le mec, quand il en parle, il a limite les larmes aux yeux, c'est qu'il doit être plutôt fier de son bébé. Alors on a eu le droit au classique push de Mandaries et choses dans ce genre là même un historien a dit ça pendant le stream live, ça a fait mourir de rire.
La Seconde Guerre mondiale a pushé les Mandaries,
et c'est véridique. Si vous regardez le replay du truc, le mec dit que la Seconde Guerre mondiale a pushé les Mandaries de la guerre, donc c'est quand même formidable. Donc mis à part ce bullshit commercial auquel on a le droit à chaque fois,
il a dit la Seconde Guerre mondiale est le DLC qui a pushé les Mandaries le plus loin possible de la guerre.
Non mais visiblement les mecs ont l'air d'être investis à fond dans le jeu et ils en sont très fiers, et d'après les infos que tu donnes, ce qu'on a pu voir et ce qu'on a pu lire, ça a l'air quand même assez intéressant.
Est-ce qu'en plus il y a un travail qui a été fait historiquement, vous avez pu voir aussi le making of où ils expliquent
historiens,
ils ont donné un peu plus d'informations, mais ils sont vraiment allés en France sur place voir les musées.
Ça, les photos,
ça ils le font un peu à chaque fois, cela dit.
Voilà, mais oui, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant de voir qu'il y a quand même un fond de sérieux là-dedans, et puis c'est pas juste du jeu vidéo, il y a aussi quelque chose derrière.
En tout cas, Call of Duty va redevenir, parce qu'il n'était plus un temps fort de l'E3, parce que à l'E3 quand ils vont dévoiler probablement des scènes
du gameplay
impressionnantes,
du multi,
j'espère que ce sera par exemple la rentrée sur Paris, ou genre
apparemment le multijoueur va être dévoilé justement à l'E3.
Ah, c'est le multi, d'accord.
Normalement ça va être il y aura pas que du multi, mais une grosse partie du multi, d'accord, reste
dévoilé. Bon, en tout cas, enfin, ça va être un moment attendu et un temps fort de l'E3, parce que c'était pas trop le cas l'année dernière.
Et quand on voit les réactions des joueurs sur la toile, aussi bien sur YouTube que dans les statistiques de fréquentation, etc., on sent il y a certains joueurs qui sont clairement passés à autre chose, mais il y a quand même une grosse partie de joueurs qui a envie de redonner sa chance à Call of Duty.
Moi, le premier, hein. Moi, je le dis clairement, hein. j'ai envie de redonner. J'ai pas joué à Call of Duty depuis 10 ans, et là, ça m'a donné envie d'y retourner. Quoi.
Et moi, ça m'a donné envie de m'y mettre, tu vois.
Moi aussi. Alors, c'est un truc de ouf. Et toi aussi, Julo ?
Ah, mais totalement.
Putain, et toi aussi, Poufy ? On va voir si Poufy hoche la tête. Poufy a hoché la tête en plissant les yeux.
Il a fait la
joue à tout.
Ouais, c'est vrai, Poufy joue à tout.
Ah, puis aussi, dernier élément sur le multijoueur, il y a aussi un mode, enfin, c'est pas un mode, ça s'appelle le headquarter. Uh-huh. Donc, encore une fois, dans cette idée dans l'optique de métamorphoser le visage du multijoueur, ça va être un sorte de système communautaire où on pourra rejoindre les joueurs.
Un peu la Destiny, c'est pas ça ? Une espèce de hub.
Voilà, c'est un peu une sorte de hub géant où on peut voir ses récompenses, on peut former des équipes, on peut rejoindre ses amis, etc. On peut aussi former des divisions. Alors là, pareil, pas beaucoup d'infos, mais dans les divisions, ça sera un système qui permettra d'avoir un rôle bien précis. Voilà, le tireur d'élite, comme dans la Seconde Guerre mondiale, quoi. Enfin, vraiment de division historique avec chacun son rôle. Et ça, c'est plutôt, ça s'engage plutôt bien.
Bon, en tout cas, on retiendra qu'il sort le 3 novembre prochain sur PS4, Xbox One et PC. Et que
c'est pas vraiment une surprise
là,
à la date de sortie, parce que de toute façon, Call of, c'est toujours à peu près à cette date.
Toujours en novembre, ouais. Et qu'il reste encore des longs mois à attendre et qu'il y aura sûrement encore de belles surprises ou des mauvaises, hein, ça se trouve, j'en sais rien. Hein, moi, je dis ça comme ça, mais il y aura peut-être des belles surprises encore qui seront annoncées. Moi, j'imagine bien qu'ils vont nous sortir un autre acteur derrière les fagots.
David Hasselhoff.
En tout cas, pour un méchant nazi, tu vois, un petit truc. Pour aller chercher un petit Christopher Waltz. Il fait plus que des pubs pour je sais plus quoi pour Clash Royale. Du coup, il dit
Mads Mikkelsen.
On a vu un PDF avec les acteurs principaux, enfin les personnages principaux du jeu. Ouais. Et il n'y a pas énormément de têtes connues, malheureusement. Bah après, il peut avoir une surprise. Hein,
moi, j'attends une surprise. Après,
peut-être dans le mode zombie pas. D'ailleurs. Peut-être vous avez David Hasselhoff, comme tu dis.
Voilà le retour de David Hasselhoff, encore une fois.
David Hasselhoff en chef zombie nazi, je trouve que ça colle. Surtout qu'il est très populaire en Allemagne.
Oui, c'est vrai. Avec des tubes hein, en Allemagne, hein.
Il a fait immortel.
Il y a un clip où il se bat contre des nazis, non, c'était il y a pas longtemps ça, c'était il y a un peu plus d'un an.
Je pense qu'il a tout fait, David Hasselhoff.
Ouais, David Hasselhoff, exactement, il a tout fait. Thème numéro 2, messieurs, on va passer au point Nintendo de la semaine, un gros point, un point assez énorme, un fist même, je pourrais dire.
le fist Nintendo.
On va commencer avec toi Romain, tu vas nous parler un peu des chiffres de vente puisqu'on a eu droit cette semaine au rapport financier de l'année fiscale 2017-2018 qui s'est achevé donc le 31 mars dernier et Nintendo est plutôt en fait.
Ah bah là ça va mieux que ça a pu je recommence, ça va mieux que par le passé.
On coupera un montage si tu veux.
Non, peu importe, ça arrive de bafouiller.
Ouais, merci la Switch.
La Switch démarrage en trombe, même au-delà de ce que Nintendo attendait. Sur le moins d'un mois finalement, parce que comme l'année fiscale s'arrêtait le 31 mars donc, et que la Switch est sortie le 3 mars, donc ça fait moins d'un mois, 274 millions d'unités vendues à travers le monde.
T'as du mal à démarrer.
Je suis fatigué. 2,74 millions d'exemplaires vendus à travers le monde en moins d'un mois, ce qui est un bon démarrage.
Ce qui est déjà plus que la moitié de ce qu'ils avaient prévu pour la fin de l'année 2017, puisqu'ils avaient tablé sur du... Enfin, ils ont tablé visiblement sur du 4 millions ou un truc comme
ça. Ils avaient été très, très mesurés, très conservateurs, comme on dit, pour leur première année. Parce qu'après, au sortir de la Wii U, ils ne savaient pas vraiment comment les gens allaient réagir. Mmh. Et ben, les gens ont très bien réagi. Et ça se passe vraiment bien pour l'instant pour la Switch. Parce qu'aussi, il y a beaucoup de consoles qui sont vendues. Mais il y a également beaucoup de jeux qui ont été vendus. 5,74 millions de jeux vendus sur la même période. 5,46 millions de jeux vendus sur la même période. Ce qui est très bien.
Mais donc combien de
Zelda ? Si vous vous moquez de moi, j'arrête.
non, mais combien de Zelda dans le tas ?
Beaucoup.
Il y a plus que de consoles.
2,76 millions.
Notamment aux États-Unis, c'est qu'il y a plus de Zelda version Switch qui sont vendues que Switch elle-même.
Non, mais ouais, ça s'est confirmé sur le monde entier.
Non, mais c'est hyper étrange. Enfin, les gens se disent.
Non, mais c'est les collecteurs.
En fait, il y a plusieurs choses. Parce
les gens qui achètent le jeu, ils n'ont pas encore trouvé la console. J'en connais un. Hein, il s'appelle Johnny One.
Ah oui, c'est
il a acheté Zelda, il n'a pas la console.
Non, mais voilà. En fait, il y a plein de choses qui expliquent ça. Parce que Nintendo a affirmé que d'après leurs statistiques maison, le taux d'adoption de Zelda c'est 90%. Apparemment, il y a 90% des possesseurs de Switch qui ont Zelda, qui ont et qui jouent à Zelda. Donc, comment on explique ce chiffre comment on explique ce chiffre? C'est que il y a donc les spéculateurs Donc les mecs, ils vont acheter des jeux en grande quantité en espérant une disette pour pouvoir ensuite faire de la plus-value sur eBay. Il y a les collectionneurs qui en achètent deux, voire trois pour en garder certains neufs. Ou alors quelqu'un qui va acheter la version normale pour y jouer, plus une version collector à garder, etc. Enfin bref, et c'est pour ça que toutes ces choses mises bout à bout, eh ben, on arrive à un chiffre de vente de jeux supérieur au chiffre de vente de la console qui, je pense, c'est on en première. Parlait la semaine dernière, je pense qu'il n'y a pas c'est... de précédent de ce type avant.
Bah, pas à ce niveau-là, en tout cas, pas à cette échelle. Hein. C'est certain.
Oui.
Précédent voilà. Dans le, veut dire dans le nombre de jeux supérieur au nombre de consoles.
Ouais.
Quoi.
Ouais, oui, au lancement. Parce qu'après ça, après ça peut arriver, mais pour le lancement d'une console, je pense que c'est du jamais vu. Alors en plus de ça, il y a eu un regain d'intérêt du côté de la 3DS. Mm. L'effet Pokémon Go qui a marché à donf, qui a créé un buzz autour de la sortie de Pokémon Soleil et Lune, qui se sont vendus à 15,44 millions d'exemplaires à travers le monde.
Ce qui en fait
un
des épisodes les plus vendus depuis un petit moment.
Ouais.
Hein.
Non mais ce qui est totalement hallucinant, c'est que la 3DS sur l'année fiscale qui vient de se terminer, c'est mieux vendu que sur l'année fiscale précédente pour une console en plus ou moins en fin de vie.
On va voir que c'est pas vraiment une fin de vie. Hein,
oui mais... oui non mais enfin une console qui a 7 ans. Réussir à faire mieux que l'année précédente, c'est quand même assez rare aussi. Donc oui, l'effet Pokémon Go, bah,
c'est là que tu te rends
évident.
Compte de la surpuissance des licences de Nintendo quoi.
Et voilà. Après Mario Maker sur parce que après cette bonne dynamique ça se répercute aussi sur les autres jeux qui sortent, donc Super Mario Maker version 3DS ça fait 2 millions. Kirby Robobot lui a fait plus d'un million aussi, donc ça se passe plutôt bien. Et Zelda par contre, la Wii U elle est clairement en train de mourir.
Elle est
à 670 000 exemplaires vendus sur l'année fiscale, baisse de 77% je crois, mais malgré tout Zelda a fait quasiment 1,08 million.
Ouais, c'est vrai ça. C'est
sur pas... Wii U.
C'est énorme hein, quand même. 1 million de Zelda sur Wii U.
Ah, et Nintendo parle d'une popularité record pour un jeu de la licence Zelda d'une manière générale en comptant Switch et Wii U. Et progressivement, ils notent que des gens qui n'ont jamais joué à Zelda auparavant, grâce aux notes, grâce au bon bouche à oreille, grâce au buzz, eh ben, se mettent à Zelda avec Breath of the Wild.
Et Zelda, oui Camille, excuse-moi,
c'est dingue la puissance de Pokémon, quoi, parce que moi, quand j'avais 10 ans, que je jouais à ma version Pokémon jaune, qui était en 2D par le dessus, en noir et blanc, jamais j'ai imaginé que 17 ans plus tard, Pokémon allait avoir encore un engouement pareil. Ouais, quoi.
C'est ce qui est le plus dingue, c'est juste incroyable, je trouve, quoi. C'est que c'est l'épisode qui est sorti cette année, enfin en 2016.
Novembre 2016, ouais.
C'est le premier épisode qui fait véritablement changer la formule. Enfin,
ah bah
véritablement.
Oui,
parce que entre le premier qui est sorti et 2016, c'était tout le temps vu du dessus, D, un peu pourri, machin, etc.
Non, ça avait changé.
Ah, c'est 2015,
ça avait changé précédemment.
Enfin, c'est
hyper radical.
Regarde, les combats maintenant, ils sont.
Mais il y avait déjà eu.
C'était pas comme ça même dans le précédent.
Moi, le dernier auquel j'ai.
Là, ça ressemble à un RPG normal.
X et Y.
Voilà, moi, j'ai pas fait Soleil et Lune. Donc pour le coup, je suis content parce que j'attends la version Switch dont les rumeurs parlent depuis un moment. Mais j'avais fait X et Y.
Pas tout de suite. Hein.
Et X et Y, c'était déjà des décors en 3D avec la caméra derrière le personnage. Il y avait déjà eu, peut-être pas autant que là, mais il y avait déjà eu pas mal de changements.
Ouais, mais il n'y avait pas Chelou. Et ça, s'il y a Chelou, forcément, c'est mieux.
Non, mais oui, progressivement, on s'approche.
Regarde à quoi ça ressemble maintenant. Quoi.
Bah, on s'approche d'un jeu en 3D.
Normal, quoi.
Progressivement, voilà, c'est ça. Mais oui, Pokémon, pour moi, c'est une excellente série. Et donc, je suis pas forcément surpris. Mais il a la version Soleil et Lune a grandement été aidée par Pokémon Go. Parce qu'en fait, Pokémon Go, pour certains aspects, ça a servi d'apéritif. Ça d'amuse-bouche. Ouais. Ils se sont dit, Pokémon, c'est pas mal quand même, mais ça va pas aussi loin que ce que j'aimerais. Et bah là, bingo, t'as Pokémon Soleil et Lune juste derrière pour avoir la full expérience.
Mais c'est pareil, tu parlais d'engouement sur les anciennes licences, par exemple pour FF7, enfin, qui les gens voulaient un remake, et bah il y a beaucoup de gens qui demandent un remake de Pokémon Rouge et Pokémon Bleu.
Ah bah moi je te dis, je serais client, tu me fais un full remake de Pokémon Rouge et Bleu, même s'il y en avait déjà eu sur GBA à l'époque.
C'était Pokémon Vert Feuille et
Rouge Feu. Ouais. Tu me fais un full remake de Pokémon Rouge et Bleu, et en connaissant Nintendo, il y a des chances qu'ils y aient pensé.
Avec cette gueule là,
moi je suis
encore mieux maintenant qu'il y a la Switch, donc ils pourraient aller encore plus loin.
Moi je suis preneur aussi direct.
Et je pense que ça serait un moyen de vendre des Switch, mais par encore justement, plus par palette.
On peut y venir puisque
par bourre palette même je dirais.
Puisque au cours de cette de ce rapport financier, il y a eu évidemment la petite session de Q&A à la fin du président Tatsumi Kimishima qui s'exprime auprès des actionnaires pour dire ce qui va se passer, hein, c'est quoi la vision de Nintendo pour les mois suivants. Et mon cher Julo,
ouais.
Kimishima a fait une promesse, hein, dans ses perspectives. Il a promis.
Il s'est engagé.
Les yeux dans les yeux.
La main sur le cœur.
Hein,
moi, président de Nintendo.
Voilà. Il a dit qu'il y aurait d'autres annonces prochainement de système seller.
Bah alors, effectivement, dans la stratégie de Nintendo, on le répète, hein, de semaine en semaine, mais le truc qui les a vraiment marqués, c'est ces erreurs de planning sur Wii U qui ont fait totalement retomber un buzz qui avait du mal à démarrer. Là, ils ont un énorme buzz avec la Switch, et là où le président de Nintendo se veut rassurant auprès des actionnaires et des autres...
C'est qu'il n'y a pas que Mario Odyssey, Splatoon et ARMS qui vont arriver.
Exactement, alors déjà,
il y en a d'autres.
Effectivement, c'est ça, c'est que il prévoit un flux continu d'annonces de nouveaux jeux, alors des nouveaux jeux
des systèmes sellers, hein, voilà. il le dit spécifiquement,
voilà,
hein,
donc il cite bien évidemment ARMS, Splatoon et Mario Kart qui viennent de sortir comme des jeux multijoueurs sociaux qui vont faire un peu l'ADN de la Switch dans les premiers mois. Et bah il veut évidemment continuer sur cette lancée et en proposer bien d'autres dans les mois à venir et ne pas laisser de temps mort pour laisser retomber le buzz. Il y a ça, et d'autre part il a parlé aussi de Hit qui viendrait d'éditeurs tiers, parce qu'il y en a quelques-uns qu'on connaît déjà, mais il y en a beaucoup qui restent à annoncer, surtout quand on voit le buzz qui est avec la Switch. On se dit que les éditeurs tiers qui pouvaient éventuellement être frileux avec ce qui est arrivé du côté de la Wii U, ce qui leur est arrivé à eux aussi, hein, du côté de la Wii U, attendaient d'avoir des signes un peu encourageants. Là,
c'est pas le cas de Square Enix par exemple, qui parle que de faire des portages le plus possible,
bien sûr, ou Ubisoft qui est toujours présent dès le départ, machin, etc. Mais disons que là ça va engranger, et le président Nintendo s'est vu extrêmement rassurant sur le fait de pouvoir sortir tous les mois des jeux importants qui vont entretenir le buzz et jamais le laisser retomber.
Donc il y a plein d'éditeurs qui donnent plus de signe de vie vraiment là-dessus et qui sûrement préparent.
Je pense qu'il va, en tout cas chez certains, il va y avoir un revirement de manière d'envisager la Switch. Ouais, c'est certain. Mais ce qui est marrant, c'est que dans le document officiel de Nintendo, FIFA et NBA 2K sont clairement mis en avant. Il y a le logo qui apparaît. Donc c'est pour ça qu'on note.
Et ils disent c'est des jeux d'éditeurs tiers bien connus qui vont retrouver en fait une vie sociale sur Switch grâce à la portabilité de la console, le fait qu'il y ait deux manettes embarquées, etc.
Et avec NBA 2K, le problème c'est que j'ai l'impression qu'ils vont rentrer en confrontation avec l'autre jeu de basket là qui est prévu.
Bah, c'est pas du tout le même style, parce que NBA Playground c'est NBA Jam like, alors que NBA 2K c'est plus de la simulation.
Et puis ça arrange Nintendo qui a une offre
variée.
Large et varié.
Mais moi ce qui m'intrigue vraiment avec NBA 2K, c'est, parce que c'est un gameplay qui est quand même très sophistiqué, très pointu, comment réussir, parce que dans la vidéo d'origine, on le voit, voilà, ils vont être obligés de faire, je pense qu'il va y avoir deux modes, c'est comme ça que je l'envisage, un mode normal, full simu, où là tu utilises tes deux Joy-Con ou une manette, etc. Et à côté de ça, tu auras un mode simplifié où tu pourras utiliser les Joy-Con à l'horizontale et les limitations en termes de nombre de boutons, parce que je vois pas autrement comment tu peux
jouer. Sinon c'est pas si limité que ça, hein. Quand tu joues avec un pro contrôleur ou avec les deux trucs, effectivement, là t'as le même nombre de boutons que sur n'importe quelle manette, mais quand tu joues avec un Joy-Con retourné, t'as quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 boutons et un stick, hein.
Ah mais t'as pas joué à NBA 2K.
Oui, mais d'accord,
tu utilises le deuxième stick déjà, là t'as qu'un stick, le deuxième stick pour les effets dans tes tirs, etc.
Après,
c'est très très sophistiqué.
Ils adaptent la formule aussi à la Switch, à son public, et à ses manettes.
Ah oui, c'est pour ça. Moi, je pense qu'il va y avoir.
Ils vont être obligés.
Je pense qu'il va y avoir. Oui, ils sont obligés. Il va y avoir deux modes. Mais ce qui est marrant, c'est quand tu vois le planning et qu'ils parlent des grosses sorties tout au long de l'année. T'as donc Mario Kart 8 Deluxe qui sort aujourd'hui, au moment où on enregistre le podcast.
Absolument.
Tu as ARMS. Tu as Splatoon 2 cet été. Et après, t'as Mario
Super
Odyssey.
Mario Odyssey à la fin d'année.
Mais lui qui vient, je pense, en décembre ou je ne sais plus quoi.
Alors entre les deux, il y a énormément de jeux. Bah, tu le sais, parce qu'on met à jour souvent la news sur les sorties de la Switch. Il y a beaucoup de jeux et notamment d'éditeurs tiers. Mais c'est vrai qu'il n'y a plus l'espèce de truc avec un hit par mois, quoi.
Et c'est
après,
justement
le premier mois, il y en aurait pas. Ça serait septembre ou octobre. Il y a des annonces à faire d'ici là.
Oui, il y a des annonces à faire. Et c'est justement
à
ce moment-là.
Oui, mais le 3, messieurs.
Attends. Juste terminer. À ce moment-là, il y a justement cette période des sorties de jeux de sport. Et vu comment ils sont mis en avant dans le document Nintendo, je pense que NBA 2K et FIFA
vont sortir
sont considérés comme des des moments, des temps forts de la Switch. Et d'ailleurs, moi, je me souviens, par le passé, le nombre de personnes que j'ai vues dans le métro à l'époque jouer à FIFA sur PSP, à l'époque de la PSP.
Et trouvé ça extraordinaire.
Je voyais beaucoup, quasiment à chaque fois que je voyais une PSP dans le métro, c'était sur, avec quelqu'un qui jouait à FIFA. Et donc, je pense que la Switch, si elle continue à se développer comme ça, un jeu de sport, même s'il n'est pas au niveau des versions PS4 et Xbox One, comme ce qui a plus ou moins été indiqué par le passé, eh ben, le jeu trouvera malgré tout son utilité dans sa portabilité.
Bien sûr, c'est clair. C'est clair. Bon, en tout cas, Tatsumi Kimishima s'est vu extrêmement aussi rassuré par les chiffres du lancement. Et du coup, il prévoit de vendre pas moins que 10 millions de Switch
distribués pour le 31 mars.
Mais c'est quasiment pareil.
Sell in, sell out, machin. Ouais. Bon, bref. Il veut distribuer effectivement 10 millions de Switch sur l'année fiscale qui arrive là. Hein.
Vous y croyez? Donc, qui a commencé le 1er avril et qui termine au 31 mars prochain.
Avril et qui se...
Vous y croyez aux 10 millions, vous?
Bien sûr.
Pour l'année prochaine?
Ouais, mais j'y crois.
Moi, j'y crois aussi.
Je crois que c'est possible, ça va être aidé parce que il y a Mario Kart là qui vient de sortir, donc ça c'est un monstre.
Ça va donc faire 12,7 millions en tout hein, de Nintendo Switch vendus d'ici, enfin distribués d'ici un an à partir de
presque autant que de Wii U sur toute sur sa durée de vie.
Exactement.
Ouais,
non, moi, j'ai une question que je me pose, est-ce que ça va être une nouvelle version dans le sens où il paraît que les premiers stocks qu'il y avait, ils avaient quelques défauts techniques.
Oh, bah ça a été rectifié.
C'est corrigé.
Moi, j'ai un défaut de Joy-Con, je m'en suis aperçu hier soir.
Ah.
Ouais. Mais du coup, on sait pas.
Moi,
si
je crois que je l'ai aussi.
Les nouvelles vagues qui vont arriver en construction, est-ce qu'ils vont corriger ces défauts? En fait, on sait pas vraiment.
Pour les Joy-Con, si.
Il y a des journalistes qui ont déjà pu vérifier qu'en recommandant une version sur Amazon, il y avait pour le Joy-Con gauche un petit carré d'isolant justement pour éviter les interférences qui n'étaient pas présents. Justement, c'était la réparation qu'il a eu le carré d'isolant. Et sur les nouvelles versions, il n'y avait pas ce carré, mais ça fonctionnait quand même. Donc, à tous les coups, ils ont réussi à rectifier ce problème-là en tout cas.
Donc, ça voudrait dire que ceux qui achètent une console à l'heure actuelle, qui sont d'ailleurs très difficilement trouvables en stock, vont avoir une version corrigée entre guillemets, quoi.
Peut-être. Peut-être.
Il n'y a pas encore de programme officiel pour renvoyer son Joy-Con gauche, etc.
Non, mais tu peux le faire visiblement rapidement avec le service après-vente et ça prend une un peu moins d'une semaine pour récupérer un Joy-Con.
Je vais essayer, tiens, pour voir.
Faut l'envoyer directement chez Nintendo ou c'est par le revendeur?
Ils ont un assez bon service après-vente.
Ouais, tu contactes le service après-vente directement. Mais tu parlais de t'aller lancer sur l'E3.
Ouais.
Le
3 qui normalement devrait être le moment de faire les grosses annonces, mais il y a un souci à l'E3.
Effectivement, le président de Nintendo a également confirmé qu'il n'y aurait pas de conférence à l'E3 puisqu'on se posait la question.
Alors qu'ils ont tellement carburé avec la conférence du 13 janvier sur la Nintendo Switch et là ils veulent ils veulent balayer tout ça d'un revers de la main.
Et oui, mon
d'ailleurs, revers c'est plutôt comme ça.
Bon, alors attendez, par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas, comme d'habitude, effectivement, le Nintendo Direct qui fera des annonces, hein, même si c'est du différé, que ce sera dans une vidéo montée, machin, etc. Il y aura évidemment des annonces à l'E3, ça n'exclut pas. Et il y aura les tryouts, etc.
Sûrement des tournois.
Après, il n'y aura pas Miyamoto sur une scène
En tout cas, Nintendo.
Qui annonce un truc de fou, quoi.
On peut dire, a commencé déjà à venir vers nous pour nous demander qui serait présent à l'E3, etc. Donc, il va y avoir des prises de rendez-vous par la suite, donc ils auront des choses à montrer. Moi, je pense pas qu'on aura un seul jeu sur le stand comme c'était le cas l'année dernière avec Zelda. Mais il y a malgré tout une question que je me pose, c'est qu'on sait que Nintendo a en principe pour politique pour ses jeux majeurs de ne sortir qu'un épisode par génération. Là, faut se dire quand même que sur la première année de la Switch, on va en avoir beaucoup de ces jeux de génération. On va avoir Splatoon 2, Mario Kart 8 Deluxe. Alors après, est-ce que Mario, dans le cas de Mario Kart, ils vont jouer sur une technicalité et dire c'est pas vraiment un nouvel épisode pour ensuite nous sortir un épisode inédit sur Switch? Il y a Zelda Twilight, Breath of the Wild, il y a Mario, tout ça sur la première année. Donc ça veut dire que sur le reste de la vie,
ça veut dire qu'ils peuvent se lâcher pour Metroid, pour F-Zero, pour Star Fox, le fameux Pokémon Stars là qui est en rumeur depuis un petit moment. Qu'ils peuvent lancer, ils ont encore un sacré bagage derrière.
Mais mis à part Pokémon, en termes de system sellers, tu peux pas comparer un Metroid ou un Donkey Kong ou que sais-je à un à un Mario Kart. Vu la... Ou à un Mario Odyssey.
Non, c'est sûr, par rapport à un Mario Kart, non. Le Smash, par exemple, un Smash Bros, c'est sûr qu'il y en aura un. Ça, ça va faire vendre des consoles aussi. Mais ouais, ouais, mais ça peut quand même. Hein. L'attente autour d'un Metroid ou un F-Zero, elle est peut-être plus forte que ce qu'on imagine.
Animal Crossing.
Animal Crossing, j'avais oublié Animal Crossing.
Il y en a pas mal. Hein.
Oui, c'est vrai.
Il y a, bon, Kirby, tout ça, c'est certes un peu plus petit, etc. Mais t'inquiète pas qu'ils vont savoir. Ils vont savoir, à mon avis, également aussi, parce que je pense qu'ils ont compris qu'il fallait renouveler un peu le truc. On se plaint que les nouveaux Mario ce soit pas des vrais nouveaux Mario, bah là le Mario qu'ils annoncent c'est un nouveau Mario, tu vois. On se plaint qu'il y ait pas de F-Zero depuis longtemps, je suis quasiment sûr qu'on cette fois qu'on va en avoir.
Après,
un
va, y avoir des, va certainement avoir plein de spin-off
et puis,
aussi
voilà, et de renouvellement de formules et peut-être même d'invention de nouvelles formules, je sais
pas,
moi, autour de Mario et des sports, etc. Il y a peut-être d'autres trucs à faire aussi, enfin voilà, je pense qu'il va pas manquer d'idées.
Il y a le RPG Lapin Crétin Cross Yoshi qui est en c'est un jeu Ubisoft.
Exactement.
Mais c'est en partenariat avec Nintendo qui se prépare depuis un moment, qui a pas été annoncé au lancement mais il existe bel et bien. C'était pas une fausse rumeur. Ça va venir, on sait juste pas quand ils vont l'annoncer.
Attends,
je pense à l'E3.
Lapin crétin
cross Mario, en fait ça sera un RPG, une sorte de RPG qui mélange les univers, mais ça sera du côté Nintendo. L'accent, il y aura plein de personnages mais l'accent sera surtout mis sur Yoshi d'après ce qu'on sait. Donc il y a ça aussi.
Bon, rendez-vous à l'E3 pour ça.
Rendez-vous à l'E3.
En tout cas, donc on parlait de la 3DS tout à l'heure et on se disait, fin de vie, pas de fin de vie, etc. Et ils ont quand même annoncé un nouveau modèle.
Ah là là, alors là, mais quelle surprise. Je me suis réveillé ce matin, on est le vendredi 28 avril, et là, mes yeux sont éblouis, littéralement, parce que Nintendo a annoncé une nouvelle console, une New 3D... Non,
new
une New Nintendo 2DS XL. Alors bon, je...
Elle est belle, hein. Moi j'aime bien son design.
Alors moi ça me fait penser au disque dur de la marque Lassie, les disques durs externes avec l'espèce de renfort autour pour éviter qu'ils se fracassent quand ils tombent. Je suis pas du tout de ton avis de ce côté-là.
Tu la trouves pas belle,
je la trouve immonde. Pour moi c'est du
jouet... celle qui était immonde c'était la 2DS normale.
C'est du jouet Play School. Oui, la 2DS aussi, de toute façon c'est encore pire que du Play School.
Là, non mais là justement c'est ça, parce qu'en fait... Bon, le principe de la 2DS c'était quoi? C'était d'éviter de jouer sur la peur des parents vis-à-vis de la 3D. C'est j'achèterais bien une 3DS à mon fils, mais bon, le problème c'est que apparemment ça nique les yeux.
Et
donc,
sur le côté fragile du clapet.
Ouais, en plus.
La 2DS c'était un jouet quoi. C'était la console de famille 3DS destinée au public le plus jeune. Clairement.
Mais comme elle était quand même, enfin franchement, le fait qu'elle se replie pas, etc., c'était un vrai problème. Bah voilà.
Mais elle avait un prix très attractif. Actif.
Et là, ce sera 200.
Bah là, c'est bizarre qu'ils annoncent un Pikmin là-dessus et pas sur Switch.
Ça viendra,
ça va arriver. Non, mais le Hey Pikmin, ouais, ça a été annoncé lors du dernier Nintendo Direct, qui lui aussi nous prouvait que la 3DS était loin d'être morte. Que Nintendo, d'ailleurs, il y a qu'à voir le résumé de ce qui a été dévoilé pour les résultats financiers là et les discours de Kimishima et tout le reste. On voit que Nintendo veut vraiment faire cohabiter encore, au moins pour toute l'année qui arrive, la 3DS et la Switch quoi.
Bah quand t'as un parc installé comme ça.
Ils sont à plus de 60 millions.
Tu peux pas la lâcher si. Enfin, lâcher le parc installé.
Est-ce que ça ruinerait pas totalement la rumeur de mini Switch du coup?
Dont on va parler juste après, oui, c'est vrai.
Dire aussi dans la stratégie, Nintendo axe maintenant la 3DS, enfin toutes les consoles de famille 3DS, plus vers les joueuses et les enfants. C'est quand... ils le disent noir sur blanc, donc j'invente
d'où l'idée
rien.
De faire une 2DS XL donc qui a l'avantage d'être XL. En fait c'est une 3DS XL sans la 3D tout bêtement, donc elle a le petit boost de performance qui va
et
bien
le côté un peu
pour certains jeux
aussi, un peu plus enfantin
ouais.
Un peu plus enfantin et qui témoigne d'une certaine solidité quoi.
Mais moi je trouve que les gens ont toujours été un peu plus
abordable que la 3DS XL.
En tout cas les couleurs blanc orange j'adore, je sais pas
c'est vrai, ça rappelle un peu Game Lock, je sais pas pourquoi.
Moi j'aime bien les deux. Moi je trouve que les gens ont toujours été un peu durs avec la 3D de la 3DS. Elle a pas été exploitée à sa juste valeur par beaucoup de jeux, mais il y a certains jeux qui l'utilisaient très bien et quand c'était bien foutu, c'était vraiment bluffant.
Mario 3D World était génial.
Super Mario 3D Land, c'est l'exemple que je prends toujours, il y a des niveaux verticaux où tu commences d'en haut et tu regardes en bas avec la 3D et l'effet est vraiment bluffant.
J'ai toujours bien aimé la 3D moi.
Ouais, mais il y a des gens qui disent ça sert à rien, c'est nul, ça marche mal et tout, et quand je trouve quand c'était bien fait, c'est
surtout qu'avec la New 3DS, ils l'avaient amélioré. la,
oui,
l'effet,
ouais. 3D. Bah moi j'utilise une New 3DS XL et c'est vrai que sur le premier modèle de base, tu te déplaçais un tout petit
l'angle
peu,
de vision était
tu perdais. Sur la New, sur la 3DS XL, c'était moins le cas et je trouve que.
Et qu'est-ce qu'on montre comme jeu dans les écrans de cette nouvelle console?
Oh là là, Mario Kart.
Bah Mario Kart évidemment.
Ah. Ah ouais. Le problème de la 3D,
l'éternel.
C'est un peu comme la VR actuellement, Camille. C'est qu'il y a eu un gros pic d'intérêt et puis ça redescend drastiquement après quoi.
Bah ouais, mais alors que pourtant c'est.
J'ai l'impression que la VR d'ailleurs va dans ce sens. Après c'est un autre débat.
Ouais, toutes les nouvelles technologies ont un petit pic et puis après. Pff, ouais,
donc là c'est un gros pic, un gros pic et puis ça redescend.
Nintendo depuis la première Wii et la première DS justement ressort des nouveaux modèles à chaque fois que le pic ça faiblit quoi.
Ouais.
Et voilà quoi. Ça,
bon,
ça, c'est une stratégie qui fonctionne.
Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir du monde qui va avoir envie de se procurer cette machine le 28 juillet quand elle va arriver en Europe?
Bah pour moi ça dépend de est-ce que j'ai une DS, est-ce que j'ai déjà une 3DS, laquelle. Si c'est le tout premier modèle, par exemple, ça peut être une occasion de le renouveler. Après, bon, bah, nous, les adultes, on va plutôt aller vers les modèles qui font de la 3D. Voilà. Si,
mais qui sont beaucoup plus chers.
Mais quelqu'un qui veut acheter une console,
à 150 euros à peu près.
Cette console, elle est faite pour ceux qui n'ont pas encore de 3DS et qui veulent en acheter une à leurs enfants.
Un hyper joueur, il n'est pas du tout concerné par cette annonce, à moins d'être collectionneur et d'avoir besoin de tous les modèles de consoles qui sortent
Johnny
pour
White,
sa collection. Nous, on n'est clairement pas la cible de cette console-là. Comme le dit le document de Nintendo, maintenant, avec la 3DS, il s'adresse plus aux joueuses occasionnelles et aux enfants. Et donc, nous, on n'est pas concernés par ça. Là, c'est vraiment pour les familles, etc., qui veulent... tu sais, c'est les consoles, elles ont toujours plusieurs phases dans leur vie. On se souvient même la PS1 ou la PS2, qui se sont vendues par dizaines de milliers, voire centaines pour le cas de la PS2. À la fin, ils continuaient de sortir des packs, etc. Mais c'était avec des jeux pour enfants, des jeux familiaux, des licences, etc. Et là, la 3DS, maintenant, elle est clairement dans cette phase-là.
En plus, si tu dis pas spécialement un public enfant, mais c'est vrai que je prends l'exemple d'une famille normale. Si par exemple l'enfant a déjà reçu une Switch à Noël, est-ce que quelques mois plus tard, je sais pas, à son anniversaire ou peu importe, est-ce que les parents vont dire ah mais t'as pas déjà eu la console Nintendo machin, il y aura pas une sorte de couac là-dessus?
Ouais, il pourrait y avoir une confusion.
De toute façon, enfin je sais pas, c'est un peu. Ça m'étonnerait sincèrement qu'un enfant qui a eu la Switch ou qu'une personne qui vient de s'acheter la Switch ait envie de s'acheter une New 2DS XL. Bah,
sauf pour jouer à Pokémon Soleil et Lune, voilà.
Mais ça
va sortir sur Switch.
Console, ce qui réduit considérablement l'intérêt.
Bah non, ça coûte beaucoup moins cher.
Oui, mais c'est pas du tout le même public. C'est pas le même public. Là, c'est pour les gens qui ont pas forcément, qui la nouveauté n'intéresse pas forcément et qui ont pas forcément le budget non plus d'acheter la dernière console au tout dernier moment. Comme l'agence touriste, c'est là maintenant oui, c'est pour les familles, etc., etc.
Mais après,
tu
vas avoir les mêmes jeux sur Switch à peu près en mieux, donc je sais pas, ça me paraît.
Mais non,
pas,
mais ça c'est pas du tout un argument.
Moi je trouve ça étrange.
Non, mais ça tu parles en ton nom là, tu parles pour
non,
toi.
Non mais je trouve ça étrange d'un point de vue marketing de proposer ça. Quelques mois après la Switch, je trouve ça hyper étrange.
Non, ça a été proposé 8 ans avant la Switch.
Oui,
c'est que le nouveau modèle du console qui continue à fonctionner.
Mais de refaire un modèle comme ça actuellement, je sais pas si ça a grand
intérêt. C'est le 15e modèle.
C'est comme la PS1, juste avant, ou relativement peu de temps avant, la PS2. Je te dis, c'est pour les gens qui veulent payer moins cher et pour les familles qui peuvent pas investir forcément dans le dernier modèle. C'est pas du tout la même cible. En fait, avec cette console-là et la Switch, ils chassent pas sur le même tableau en même temps. C'est pas deux produits en concurrence directe l'un avec l'autre. C'est pas du tout ça.
Voilà. On va finir ce point Nintendo et passer à Dawn of War juste après, mais on va finir avec cette rumeur qui nous vient de je ne sais pas où exactement,
d'un peu partout
dans le monde. Ouais. Ça concerne une éventualité d'un nouveau modèle de Nintendo Switch pour l'orée 2018-2019, c'est ça Romain?
Alors, je t'avouerai que c'est pas moi qui ai fait la news, donc je l'ai pas.
C'est pour
pas,
ça que je te regardais en fait.
Je l'ai pas trop regardé, je l'ai balayé d'un revers.
Ouais, exactement.
Parce que.
Mais d'où vient cette idée?
À terme, c'est certain qu'il y aura une révision de la Switch, mais je pense que c'est beaucoup trop tôt. Il me semble que ce sont des analystes en fait qui ont tablé sur
ça. C'est des analystes qui prévoient en fait que Nintendo, du fait de la taille imposante de la Switch, parce que bon. c'est un grand écran, mais du coup avec les deux Joy-Con qui sont de chaque côté, bah dans la main d'enfant, ça peut paraître comme une console un peu trop grande, un peu trop grosse.
Ah bon.
Moi ça dérange pas du tout mes enfants, hein, personnellement.
Oui, j'ai l'impression aussi que ça dérange pas.
Mais du coup l'idée en fait de proposer exactement la même chose, mais d'intégrer directement les Joy-Con sans qu'ils soient détachables avec un écran plus petit, ça pourrait faire baisser la taille de la console. Et l'idée dans la tête des analystes, je pense, c'est de remplacer justement les modèles de 3DS, les consoles portables chères, etc. à terme, sachant qu'elles garderaient la fonctionnalité de pouvoir être branchées dans le dock et d'emmener l'image donc sur
mais les
télévisions.
Mais les analystes sont pas sortis de leur chapeau, ils doivent bien avoir une idée. Donc,
en fait, ça serait une full console portable pour le coup.
Non, parce pas full, parce que tu pourrais quand même la mettre sur un dock et la brancher sur ta
télé.
Oui,
non, mais au sens où les Joy-Con sont pas séparables,
voilà.
etc.
En c'est fait, la, si c'est la veux, différence, c'est pour gagner en taille, en fait.
Cette console-là impliquerait que si tu veux l'utiliser, si la rumeur dit vrai, enfin si les analystes ont vu juste, ça impliquerait que pour y jouer en console de salon, tu achètes nécessairement une manette pro ou deux autres Joy-Con en plus.
Ça serait compatible avec les Joy-Con, évidemment, etc.
Moi, j'y crois pas une seule seconde.
Alors,
dans un futur immédiat.
Non, mais dans un futur immédiat, c'est sûr que non.
Ouais.
Évidemment, Nintendo.
Là, du coup, ça serait se tirer une balle dans le pied.
Bah, oui. Non, mais il est hors de question qu'ils fassent ça. Ils viennent de lancer la console. Ils vont pas lancer un nouveau modèle de la même console. Évidemment que non.
Surtout
mais
que ça brouillerait le message.
Dans les années à venir, en fonction de ce que fera la 3DS sur le marché, il faudra penser soit à remplacer la 3DS par une autre console portable et à ce moment-là avoir un risque de cannibalisation par rapport à la Switch, soit de sortir un nouveau modèle de Switch. Je trouve que c'est pas si con comme idée. Après, faut voir l'évolution du marché consoles
là,
Nintendo.
Mais là, pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt.
Pour l'instant, c'est évidemment beaucoup trop tôt, donc on va balayer ça d'un revers de main.
Des révisions de Switch, ça arrivera certainement. Mais là, ils mettent un peu la charrue avant les bœufs.
Deux-trois ans facile avant qu'il se passe un truc à ce niveau-là, je pense.
Sauf s'il y a un ralentissement brutal des ventes de la Switch l'année prochaine.
Pour
l'instant, ça semble pas trop parti dans ce sens-là.
Ça dépendra du planning. Hein,
Jeux. Voilà. Même si il y aura d'ici l'année prochaine, déjà sur Switch, beaucoup de jeux considérés comme evergreen. C'est des jeux qui se vendent sur des périodes de temps très longues. On aura Mario Kart, Zelda. On aura Zelda, on aura Mario Odyssey. Donc, sont des jeux qui vont permettre à la console de continuer de se vendre sur le long terme. Voilà.
Très bien, bon, on va passer au troisième thème de la semaine. Messieurs, je vais me tourner vers Camille cette fois, puisqu'on va parler de Dawn of War 3, le RTS qui se déroule donc dans l'univers de Warhammer 40 000, suite de Dawn of War 2, incroyable.
Exactement.
C'est un,
surprise.
J'ai 18 en matobac, c'est pour ça. Ce Dawn of War 3 est-il au niveau d'excellence affichée par le deuxième épisode il y a quelques années, qui était devenu une référence dans le domaine? Est-ce que c'est encore le cas avec Dawn of War 3? Est-ce que ces développeurs ont gardé leur touche pour en faire quelque chose d'inoubliable en termes de RTS?
Alors c'est un peu le RTS de l'amour, la réunion des fans, puisque pour ceux qui connaissent un peu la saga, Dawn of War 1 et Dawn of War 2 a beaucoup fait, enfin le gap qu'il y a eu entre les deux a beaucoup fait parler. Il y en a qui étaient plus favorables au gameplay du 1, d'autres à celui du 2, et finalement voilà, il y a une certaine, même des engueulades qui se créent par rapport à ça. Et le 3 en fait compte, c'est l'épisode de la réunion, il compte réunir tous les fans autour d'un même épisode en prenant les évolutions du 1 et les évolutions du 2. Enfin c'est assez étrange, mais voilà, ça marche plutôt bien. Alors dans l'état actuel des choses, c'est quand même un RTS qui marque, parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un jeu de stratégie de cette ampleur et de cette qualité.
C'est vachement joli en tout cas.
Faut
pour
quand même
un
le dire.
RTS.
Oui, en plus.
Souvent les RTS, c'est quand même pas.
Ouais, en plus la vidéo fait pas vraiment honneur au contenu du jeu. C'est plus beau que ça. C'est beaucoup plus beau
oui,
que ça.
Oui, ça, c'est des premiers trailers, ça.
Oui, ça, c'est le premier trailer. Je crois que c'est une version alpha, mais c'est beaucoup mieux actuellement. Et comme vous pouvez le voir, l'accent a été mis sur les héros. Alors ça. Ça va être une chose aussi qui a été beaucoup décriée à la sortie. Donc le jeu est sorti hier, hein, mais ça fait longtemps qu'on
en
parle.
Donc ce jeudi 27 avril sur PC.
C'était le 26.
26, donc mercredi 26.
Mercredi 26, il me semble.
Ouais.
Enfin, peu importe, à la limite pour un jour. Beaucoup de gens ont dit c'est plus vraiment un jeu de stratégie, c'est un MOBA. Parce que c'est vrai que quand Dawn of War 2 est sorti.
C'est étonnant la vue, quoi.
Oui, enfin non, la vue ça a toujours été à peu près la même, mais c'est surtout l'intérêt qu'ont les héros maintenant. Faut savoir quand Dawn of War 2 était sorti, donc c'était quand même bientôt il y a 8 ans, 9 ans, le genre MOBA avait pas autant d'ampleur que maintenant, et ça avait ça marquait pas autant l'esprit des gens, mais il y a toujours eu des personnages héros dans Dawn of War, et donc enfin on voit pas pourquoi ça serait une copie du MOBA. Non, c'est pas du tout ça dans l'esprit des joueurs, enfin l'esprit des développeurs. Alors c'est vrai que les héros ont une prédominance sur le champ de bataille, puisqu'ils vont apporter beaucoup de bonus, ils vont pouvoir même renverser le cours de la bataille, notamment alors vous voyez sur la table actuellement le marteau, c'est le marteau d'Angelo qui est un Space Marine qui peut à lui tout seul ravager les rangs ennemis et puis renverser le cours de la bataille. D'ailleurs à ce niveau là c'est le seul reproche qui est d'ailleurs à faire là dessus c'est au niveau de la pas l'optimisation mais comment on dit
l'équilibrage.
Voilà, il y a des personnages qui sont clairement avantagés par rapport à d'autres, mais bon après ça, c'est aussi une question de gestion. Alors le jeu, comme je vous l'ai dit, est sorti il y a quelques jours par rapport à l'enregistrement de cette vidéo, et je sais déjà qu'il y a des gens qui se mettent à gueuler, ah mais c'est pas équilibré machin, et d'autres au contraire qui disent mais si justement c'est équilibré. Alors moi je suis plutôt de cet avis là, c'est à dire que moi je trouve le jeu assez équilibré au niveau des factions. Il n'y en a que trois des factions, il y a les orques, les space marines et les Eldar. Donc les Eldar c'est l'équivalent des elfes. Donc l'univers 40 000, hein, on s'éloigne évidemment de l'univers Warhammer classique, là on est dans un
univers futuriste
science-fiction, c'est un dark fantasy, et donc ce sont trois factions qui se jouent radicalement de manière différente. On a les space marines, donc là c'est vraiment la faction la plus classique, ce qu'on trouve dans l'RTS, c'est-à-dire qu'on va construire sa base, on va construire des unités, on va améliorer sa technologie, du coup ça va améliorer toutes nos unités, etc. On a les orcs qui eux sont totalement différents, qui vont fonctionner sur un système de warg. Donc pour faire simple, on va devoir construire des tours qui vont augmenter la fureur de nos orcs, et ils vont évoluer technologiquement en récupérant de la ferraille, parce que dans l'univers Warhammer 40 000, les orcs sont des ferrailleurs, ils vont récupérer la ferraille que produisent ces tours pour s'équiper, et on a ensuite les Eldar qui eux ne comptent pas vraiment sur leur nombre contrairement aux orques, mais plus sur leur position. C'est une armée qui peut se téléporter, donc qui est vraiment basée sur le mouvement, et c'est vraiment en ça que le jeu apporte un certain vent de fraîcheur sur le genre de jeu stratégique. C'est-à-dire que par exemple quand on joue les elfes, on va pouvoir se téléporter littéralement sa base d'un point à l'autre de la map pour s'adapter à la stratégie du joueur ennemi. Alors oui, c'est pas que du multijoueur, il y a aussi une campagne solo qui est d'ailleurs assez intéressante.
J'allais te demander justement, oui, si la campagne solo tient la route.
Une campagne solo qui tient la route, alors c'est entre le tutoriel géant pour apprendre les bases du jeu, apprendre les factions, et en même temps ceux qui aiment l'univers Warhammer seront servis, puisqu'on a toute une histoire qui va se former autour du background. On a notamment je vous fais un peu de teasing, mais je vais pas vous spoiler, vous inquiétez pas, une sorte de quatrième faction une menace en fait grandissante, je vais pas vous dire laquelle, mais qui va apparaître comme ça dans le scénario, et on va devoir, chacune des factions va faire des recherches de son côté, et en fait en gros ça fonctionne comme ça: on va jouer une mission Space Marine, ensuite une fois qu'on l'a fini on va jouer une mission Orc et une mission Eldar. Chaque fois ça va être ça, on va sauter de faction en faction, et on va en fait jouer le même scénario mais du point de vue de la faction. Donc voilà, quand on joue les Space Marine, on fait un débat et on se bat contre des orques, et là si on joue les orques on va voir le débarquement Space Marine, on va devoir lutter contre ça. Donc on pourrait croire que finalement c'est répétitif, mais en fait pas du tout, c'est vraiment un point de vue, un gameplay très différent, et on s'y retrouve pas mal. Mais pour ceux qui connaissent la franchise et de toute façon les jeux de stratégie en général, c'est pas le mode solo qui va compter énormément. Faut savoir que si vous achetez Dawn of War et la plupart des jeux de stratégie pour le solo, vous serez vite déçu. Le multijoueur a une énorme importance, et c'est vraiment 80% du jeu. Les serveurs sont déjà bien pleins à ce niveau-là. Et donc oui, le multijoueur est très important. Malgré tout, pour l'instant, il n'y a qu'un seul et unique mode de jeu. C'est le mode... alors je connais pas le nom en français, mais c'est le mode Engine. Enfin, c'est en fait, en gros, on va devoir détruire un sorte de générateur d'énergie dans la base ennemie. Et donc ça va être sur de la prise de position petit à petit pour progresser vers la base ennemie. Donc c'est vraiment très stratégique. C'est plus qu'un basique pierre papier feuille ciseaux, puisque on va avoir des unités qui vont vraiment en fait. Ce qui fait le charme de jeu, c'est la rapidité de son gameplay. Ça va être un peu comme du StarCraft. Il faut s'adapter sans cesse à la stratégie de l'ennemi. Si par exemple l'ennemi est très offensif et aérien, on va vite devoir construire des unités anti-aériennes. Enfin, c'est vraiment ça peut dérouter. Ça peut dérouter, ça peut vraiment être stressant pour certains joueurs qui sont pas habitués à la rapidité comme ça dans les jeux de stratégie. Faut vraiment avoir l'esprit très vif ou alors l'habituer à l'être, parce que c'est on peut vite se faire massacrer la gueule en quelques dizaines de minutes si on n'est pas assez réactif par rapport à la stratégie de l'ennemi. Donc ça peut se jouer jusqu'à 4 contre 4, donc à 8 joueurs en tout, et bah c'est un gros bazar comme vous pouvez l'imaginer. Donc voilà pour The Dawn of War, c'est vrai que moi j'ai alors le jeu j'ai mis 7 sur 10. C'est un très bon, un très
7
bon.
Tu as pas mis 8?
J'ai mis 7.
Ah bon? Moi je croyais que c'était 8, pardon.
Attends, tu es en train de me mettre
t'as mis 8 très bon.
T'as mis 8.
Oui voilà, c'est ça. J'ai mis 8 très bon, pardonnez-moi.
Non, pas de soucis.
C'est vrai que j'avais hésité au début, puisque quand j'avais commencé à écrire le test, j'avais uniquement fait la campagne solo et j'avais un peu peur en fait de la partie multi qui était finalement trop légère par rapport au fait qu'il y ait qu'un seul mode de jeu. Et comme je vous dis, vu que le mode de jeu peut être joué de manière très différente, finalement c'est un peu un mode de jeu en plusieurs, enfin comment dire ça, plusieurs en un en fait.
D'accord.
On va plusieurs
tout
méthodes
en un,
tout en un, on va plusieurs méthodes, on peut faire du rush au début, on va pouvoir faire de la défense, il y a vraiment pas mal de choses à faire. Et donc, et en plus de ça, les développeurs ont annoncé qu'il y aurait potentiellement des, même si c'est pratiquement sûr,
des mises à jour
gratuits qui vont arriver d'ici là. Mais dans tous les cas, faut pas avoir peur vraiment de le fait qu'il y ait trois factions. Ça peut paraître léger.
N'ayez pas peur.
Il y a beaucoup de jeux de stratégie où on contrôle, comme la saga Total War, où voilà, on contrôle jusqu'à 12, 15 factions.
Des mêmes développeurs, Total War ?
Non, pas du tout. Alors là, on est.
C'est Relic, là.
C'est Relic Entertainment. Et Total War, c'est Creative Assembly.
Mais c'est Sega qui est derrière. Voilà.
D'accord.
Même éditeur, mais développeurs différents. Voilà ce qu'on pouvait dire sur The Dawn of War.
Bah écoute, ça a l'air très impressionnant.
C'est un très bon jeu de stratégie, sûrement le meilleur depuis ces derniers temps. Après, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un genre à part entière, basé sur la vitesse. Et je sais qu'il y a des gens, même dans mon entourage, des amis qui m'ont pas forcément apprécié, puisque c'est,
qui sont moins voilà, plus axés sur la gestion que sur la précipitation.
Dans le jeu stratégie, c'est qu'il y a vraiment deux écoles. Il y a l'école Starcraft où c'est de la grosse
rapidité. Il faut être un poulpe.
Voilà, c'est ça. Mais c'est exactement ça, où il va falloir s'adapter à chaque situation. Et il y a les jeux un peu plus tactiques comme Steel Division, qui va sortir dans un petit mois, du studio Gen System, où là c'est plus du à grande échelle, où on va devoir
plus sur la réflexion que sur la rapidité, quoi.
Plus sur la tactique pure militaire que sur la construction d'unités et l'adaptation au champ de bataille. Voilà.
Voilà, Steel Division que t'attends avec impatience, parce que Gen System sont très très forts dans le domaine.
Exactement, et pour encore la Seconde Guerre mondiale d'ailleurs. Et encore un retour sur la Seconde Guerre mondiale en stratégie cette fois, et qui a l'air vraiment vraiment pas mal. Pour ceux qui savent pas de quoi il s'agit, j'ai une preview là-dessus. J'ai eu l'occasion d'aller voir le studio.
J'ai un système qui ont fait Wargame
Ruse, c'était leur premier jeu. Et, on se décale un peu du sujet, mais. Ouais. Ce qui faisait le point fort de leur jeu, en fait, c'est surtout l'Iris System. En fait, c'est le but de pouvoir, contrairement à Dawn of War, où on a une vue fixe, on peut un peu zoomer, mais ça va pas vraiment changer drastiquement le gameplay. Dans Ruse, on peut dézoomer jusqu'à avoir une carte d'état-major, à zoomer jusqu'à avoir le grain d'herbe, en fait, sur le champ de bataille. Donc c'est assez impressionnant.
Romain, voilà. Tu fais le zouave, tu voulais dire quelque chose.
Non, moi je pense que. moi je suis un peu inquiet, Camille, je t'avouerai, parce que je trouve qu'il manque un petit peu de jeux de stratégie.
Dragon, ouais.
Il manque un peu de jeux de stratégie sur PC. Il n'y a pas assez de sorties, il n'y en a pas assez de différents. Et je commence à m'inquiéter un petit peu.
Bah écoute, le jeu de stratégie qu'il va y avoir avec enfin, le jeu de jeu de rôle avec des chevaliers, il n'y aura pas de dragon pour le coup, mais il y aura avec des chevaliers. C'est Mountain Blade qui est attendu par à peu près 90%
des Camille
PC.
De France. Voilà.
L'association des joueurs de jeux de stratégie du dragon de France.
Oui, c'est vrai qu'il y a pas, mais non, mais c'est une rumeur. Il n'y a pas que des jeux avec des dragons et des chevaliers.
Non, mais là je parlais pas de chevaliers de dragon
sportive, hein,
je parlais pas de jeux de chevaliers de dragon là pour le coup, parce que je sais que ça tu n'en manques pas. Non, je parlais de jeux de stratégie, parce que là il y a celui-ci qui sort, il y en a apparemment 14 autres prévus dans les deux prochains mois.
Non, mais justement, le jeu de stratégie, c'est un peu comme le FPS, c'est un perpétuel renouvellement, et il y a eu un âge d'or, donc c'était l'époque d'Age of Empires. Pareil pour le FPS, c'était l'époque de Call of Duty 2, et là il y a eu un ça redescend, ça remonte, voilà, c'est il y a de moins en moins de jeux stratégie finalement. Enfin, il y en a beaucoup qui sortent mais qui se cassent la gueule. Ouais. Des très bons jeux, enfin, ou même des bons jeux tout court de cet acabit, il y en a finalement très peu. Il y a eu il y a pas longtemps, c'était le dernier, c'était Civilization 6, et pour le coup, c'est pas un jeu stratégie, c'est un 4X, donc voilà.
Très bien. Bon, bah c'est tout pour Dawn of War. On va faire un petit topo rapide avec Julo sur les tests, les autres tests de la semaine, mon petit Julo.
Oui, parce que j'avais envie de revenir sur l'un d'entre eux qui n'est pas encore paru. C'est un peu compliqué comme truc, mais en fait.
Au moment où, en tout cas, on enregistre, c'est pas paru.
Au moment où on enregistre ce podcast,
vous entendrez ce podcast si vous n'êtes pas premium. Il sera peut-être paru si Julo arrête de chialer quand il en parle. Tu voulais parler de...
Moi, je suis le gamer fragile, moi.
Ouais, en fait. C'est ça, c'est exactement ça.
Ouais. Je voulais vous parler de What Remains of Edith Finch, qui est en fait le nouveau jeu de Giant Sparrow qui avait réalisé...
Le frère de Jack Sparrow, c'est ça ?
Exactement. Mm. Qui avait réalisé The Unfinished Swan, sorti
sur PS3. Qui est la suite
de,
du côté de chez Swan.
Tu vas arrêter de m'emmerger, là, parce que j'ai envie de partager avec vous un vrai... énorme coup de cœur.
C'est vrai, tu veux mon épaule là, pourquoi? Je sens que tu vas chialer encore.
Peut-être. Ouais. Là, en revoyant ces images, maintenant que j'ai joué au jeu et que je l'ai fini,
ça me donne
des gros frissons dans le dos. Alors voilà, donc
rapidement,
What Remains of Edith Finch, c'est un jeu narratif pur jus, c'est-à-dire c'est un jeu qui appartient au genre que certains appellent avec dédain les walking simulators, les simulateurs de marche à pied. En gros, pas de challenge à proprement parler,
pas de fourchette à ramasser pour aller la revendre,
pas de véritable énigme, mais simplement une histoire qui se déroule. Tu vas d'un élément à un autre déclencher en fait tout un tas de petites histoires. Alors Edith Finch, c'est qui? C'est la dernière représentante d'une famille, la famille des Finch, et tout le monde est mort dans cette famille. Et quand je te dis tout le monde est mort, on parle sur quatre générations, hein, de l'arrière grand-père qui est arrivé de son pays lointain aux États-Unis avec sa femme et sa fille. Et plus exactement avec sa fille, la seule qui lui restait à ce moment-là, et tous les enfants et les enfants de ses enfants qui sont morts dans des conditions un peu différentes, chacun d'entre eux, mais toujours un peu tragiques. Et Edith, c'est la dernière personne, dernière représentante de cette famille qui revient dans sa maison après des années où elle a été éloignée, hein, en fait, de toutes les histoires familiales. Et en fait, elle a toujours été éloignée de toutes ces histoires familiales, elle ne sait pas trop. Elle connaît pas trop sa famille, elle va refaire connaissance avec elle par le biais de petites histoires, donc une histoire par frère et sœur, une histoire pour sa mère, une histoire pour son grand-père, son oncle et tous les autres. Et la grande réussite de ce jeu, c'est d'abord en fait l'aspect narratif qui est extrêmement extrêmement bien géré. Donc le jeu est doublé en anglais, mais sous-titré en français. Quand je dis sous-titré, d'ailleurs, c'est un point un peu particulier parce que les textes apparaissent de façon un petit peu flottante. Les textes apparaissent effectivement en surimpression sur l'écran, et ils disparaissent de manière toujours différente selon les situations, etc.
Les sous-titres stylisés.
Il y a un véritable soin apporté en fait, non seulement à ça, mais à tout le reste en fait. Chaque petite histoire est une sorte de poème macabre hyper touchant qui te permet en fait de faire la connaissance de chacun des membres de cette famille, et t'en ressort avec l'impression presque de les avoir connus, de la même manière que le personnage principal du jeu, Edith, qui les connaissait pas et qu'apprend à les connaître au fil du temps. C'est hyper émouvant parfois. La même maison que vous voyez là à l'image est totalement dingo, parce qu'en fait la mère et la grand-mère d'Edith, non, c'est la mère d'Edith, une fois qu'il y avait quelqu'un qui mourait dans la famille, scellait la porte de sa chambre et la laissait comme une espèce de musée de la personne, comme un mausolée en fait de la personne. Tu vois, là on voit le personnage qui regarde à travers le petit œilleton, parce que chacune de ces portes scellées a un petit œilleton pour qu'on puisse se rappeler de la personne qui vivait là. Et donc la maison a continué à se construire avec des espèces de cabanes qui montent en hauteur comme ça. Il y a un côté un peu farfelu, ouais.
J'allais dire Burton aussi, ouais,
un peu
c'est
Burton
vrai.
Ouais, en tout cas totalement farfelu. C'est une famille vraiment farfelue, et c'est une famille dont toutes les histoires sont extrêmement touchantes. Alors le point commun qu'on peut trouver avec Unfinished Swan, c'est que tout se passe par des petits bloc-notes, des choses que tu retrouves des personnages, et chaque histoire de personnage commence par une petite note que tu commences à lire, que le personnage commence à lire, et ensuite est transposé dans un monde. Et alors la grande réussite de ce jeu aussi, c'est que chacune des histoires offre presque un gameplay différent, et là, et je parle bien de gameplay, parce que contrairement à la à la plupart des walking simulators, comme on les appelle malheureusement. Voilà, ici par exemple, on voit l'une des toutes premières histoires
on est un
où
chat.
Tu te transformes en chat puis en requin. C'est hyper surprenant, c'est hyper dérangeant parfois. C'est et c'est toujours ça te bouge toujours. C'est des histoires qui te bougent vraiment, qu'elles te donnent envie de chialer ou qu'elles te laissent un sentiment amer. Elles ont toutes une particularité, y compris dans le gameplay. Et là, j'ai pas envie de vous spoiler et de vous en dire beaucoup plus, parce qu'en fait, c'est la découverte de chacune de ces petites histoires qui est véritablement à la fois touchante et surprenante. C'est vraiment un jeu surprenant dans chacune de ces petites histoires qui se répètent jamais. En même temps, j'ai envie de dire heureusement, parce que le jeu dure environ 3 heures. Mmh. Mais c'est 3 heures chargées de moments en fait, dont tu vas te rappeler vraiment très longtemps. C'est un jeu très marquant.
Dans le moment où t'es un aigle et tu bouffes un lapin, là.
Ouais, ça c'est trop triste. Je suis bouleversé.
Je vous assure qu'il y a beaucoup plus triste que ça, et beaucoup plus tragique. Mais j'ai vraiment pas envie de vous dévoiler des séquences. Mais il y a des séquences de gameplay qui sont vraiment surprenantes en termes de gameplay, de réalisation aussi. Il y a des trucs vraiment curieux et des trucs vraiment surprenants. Voilà.
Et c'est disponible donc sur PS4
et PC.
Et PC, et What Remains.
Voilà, c'est environ 20 euros, je crois. Et vraiment, c'est un coup de cœur, je vous le recommande. Le test n'est pas paru, mais voilà, je vous spoil, il va avoir 9 sur 10.
Oh,
et indispensable.
Voilà, avec la petite larmichette en plus.
Quand on aime les jeux narratifs, c'est juste immanquable. Vraiment.
Tu m'as donné envie.
Moi aussi.
Et vraiment, la poésie de ce jeu est hyper marquante. Vous vous en souviendrez longtemps après l'avoir terminé, je pense. Voilà.
Très bien.
Il y a eu d'autres tests dans l'actualité de Gameblog cette semaine.
Quoi
il y a eu Little Nightmares qui est vraiment un jeu marquant en termes visuels aussi.
En termes esthétiques, ouais.
Esthétique. Ça, on le savait déjà. Après, il a peut-être un petit peu plus déçu en termes d'intérêt parce que les énigmes sont vraiment ni intéressantes ni corsées. Voilà. Après, le jeu a une touche visuelle vraiment
il
particulière
gueule,
ouais. Qui lui donne vraiment son intérêt. Donc, il a eu 7 sur 10 sur Gameblog. On a eu également Puyo Tetris cette semaine. Et ça, c'est un jeu qui a véritablement marqué la rédaction, hein, on peut le dire.
Ah bah, surtout pas... les stats de Tetris que tu voilà. as.
On n'arrête pas d'y jouer à la rédac. C'est un jeu Switch de plus qui est immanquable.
Alors qu'il existait déjà sur.
Romain lui a mis un 8 sur 10.
Qui est dispo,
indispensable.
Soit dit en passant, en Europe, dispo sur PS4 aussi. Mais il prend vraiment tout son sens. Voilà.
Nous, ici à la rédac, on y joue sur Switch.
Combien ce jeu d'ailleurs ?
C'est 40 euros, il me semble.
C'est pas le plein pot, mais voilà, c'est un mélange de à la fois Tetris et de Puyo Puyo.
Ça semble être tellement improbable de base de mélange. De faire un crossover entre des licences de puzzle game.
Et en fait, ça marche bien.
Et ça marche très bien. Ils ont réussi à. Si vous voulez jouer que à Puyo Puyo, vous pouvez. Si vous voulez jouer que à Tetris, vous pouvez aussi. Mais vous pouvez passer de l'un à l'autre en cours de partie et aussi prendre part à des. Comme là, vous pouvez le voir à l'écran, à des matchs qui mélangent les deux en même temps.
Et c'est surprenant de qualité en fait.
Et tout fonctionne très très bien. C'est ultra addictif à 4, enfin à plusieurs. On se marre bien avec ça. Donc, chaude recommandation pour ce Puyo Puyo Tetris.
Ah, 8 sur 10,
ouais.
Indispensable.
J'ajouterai pipi. Voilà.
Voilà. On a également eu d'autres jeux, dont The Disney Afternoon Collection pour les nostalgiques. Hein, c'est les jeux NES de Disney qui ressortent en version.
Ah bah, t'as envie de rentrer à la maison prendre ton goûter quand tu vois.
Voilà.
J'ai envie de revoir Jean-Pierre Foucault et Anne me balancer des épisodes de Super Baloo.
Ça c'était Disney Parade, Super Baloo et tout ça. C'était au Disney Club. Mm. C'était le matin et je me souviens plus des présentateurs. Mais moi je me souviens, j'étais avec ma petite sœur et mes parents. Même on regardait le Disney Club le week-end.
Attends,
en tout cas, Thomas a vraiment trouvé que c'était un bon petit remaster compilation de ces vieux jeux qui étaient de très très grande qualité à l'époque et qui se laisse jouer encore aujourd'hui avec beaucoup de plaisir. Donc 7 sur 10
avec
sur Gameblog.
Avec une petite option de rewind comme on a pu le voir là, à l'écran.
Parce que certains étaient durs hein, pour le coup.
Par exemple, la bande à Picsou aussi, etc.
On parle de Capcom, hein, les gens qui nous ont fait Megaman, donc forcément.
Oui.
Ensuite,
Camille a également testé, on terminera avec ça cette semaine, Sniper Ghost Warrior 3.
À ne pas confondre avec Sniper Elite 4 comme je le fais à chaque fois.
Rien à voir, et d'ailleurs. Je retiendrai du test de Camille, donc le jeu a eu un 6 sur 10 satisfaisant, que des développeurs de talent ont fait montre de vraiment grande qualité sur notamment le recul des armes et tout un tas de choses, mais que le jeu a semble-t-il pas eu le temps ou l'argent nécessaire qui aurait pu faire de lui
une référence.
Un bon jeu, voire un très bon jeu. Ça viendra peut-être avec des patchs, et il y a notamment le mode multijoueur qui arrivera dans un deuxième temps.
Voilà, c'est... tu confirmes ces dires, Camille ?
Je confirme totalement.
Bon, eh bien écoutez, messieurs, je pense que nous allons confirmer la fin de ce podcast, qui était encore une fois très très chargé. Hein. On croit que l'actualité est faiblarde en ce moment, mais en fait pas du tout, il se passe des milliards de choses. Et je pense que la semaine prochaine, quand on va reprendre le podcast, ça va être exactement la même chose. Il va y avoir des milliards de choses dont on va vous parler.
Et d'ici la semaine prochaine, vous aurez tous joué, bien sûr, What Remains of Edith Finch.
Non, désolé, moi j'ai un Persona 5 à faire avancer, et puis j'ai un Mario Kart à commencer, et puis j'ai appuyé au Tetris, il faut que je vous défende.
Il y a trop de trucs.
Non, bah Edith Finch, ça dure 2h30-3h.
Bah très bien, bah vas-y, tu joueras pour moi. Alors non, j'irai voir ton let's play. Vas-y, fais-nous un let's play. Et...
j'ai pas envie de le faire, mais je vais quand même le faire en prévenant les gens. Je vais faire une vidéo très courte de test vidéo, je pense. Ouais. Très Parce bien. Que je pense qu'il faut voir le début pour se rendre compte que de où on t'emmène, quoi. Voilà.
D'accord. Bah nous, on vous emmène, comme je vous le disais, vers la fin de ce podcast. Je vais évidemment vous remercier de votre fidélité, de nous avoir suivis tout au long de ce podcast, de nous avoir regardé si vous êtes premium. Je vais évidemment remercier aussi Poufy à la sono, je commence par lui aujourd'hui. Julo, évidemment, Camille, Romain, merci à vous,
merci à vous
pour ce podcast et pour ce commentaire de l'actualité très très chaude, une fois de plus. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures. Je vais la refaire. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures. Et d'ici là, comme le veut la coutume, portez-vous bien et surtout,
jouez bien à Edith Finch.
Ciao.
Salut.
Tapouille, tapouille.